Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
17h59, bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal, comme tous les vendredis. J'avais hâte de faire cette émission, encore plus que d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le football, dans mon football, dans ma passion cette semaine, et qui me taquinent vraiment. On va revenir dessus. Et pour revenir sur tous ces événements-là, bien sûr, François Pinet qui remplace Jean-Louis Tour.
Salut Jérôme.
Vacances. Salut François.
Salut à tous.
Ça va ?
Oui, ça va très bien. Une semaine qui devait être calme au départ. J'ai accepté de remplacer Jean-Louis, et puis finalement, il s'est passé 2-3 petits trucs dans l'actu.
Ah, bah ouais, 2-3, ouais. Il y a eu plein de choses à dire, ouais, ouais. On vous a écouté et j'ai participé aussi, oui. Pas mal de débats, donc avec notre maître à tous,
j'ai
bien
entendu
sûr.
Déjà.
On l'a entendu toute cette semaine, on l'a entendu ruminer. Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Mi.
Salut Captain.
Bonjour à toutes et à tous. Tu vas me laisser parler, Jérôme, ou pas ?
Mais oui, je te dis bonsoir,
ah bon,
laisse-moi.
Bonjour.
Bah, tu
bonsoir.
Vas avoir le temps.
S'il avait succès, il y avait autant de problèmes, autant d'histoires, François, il serait resté calfeutré.
Mais non, mais tu rigoles. Moi, je vis pour ça. Moi, je vis pour ces actualités-là, pour sauver le football.
Tu peux faire ça, de
toute façon. On a quand même sauvé le football cette semaine. Hein.
La
c'est pas
Super
rien.
League, les Bordeaux et tout.
Ouais. Eh non, mais on avait peur de s'embêter un peu cette semaine, c'est vrai. Pas de Ligue des Champions, habituée à la Ligue des
Exactement.
Champions. Ouais, on a été servi.
C'est superbe. Et on va être encore servi ce soir. Dans 30 minutes, l'élève contre le maître. Captain Jérôme a envie de te parler de l'avenir de Florian Thauvin à Marseille. C'est l'heure pour lui de tourner la page de l'Olympique de Marseille. D'après Captain, on en parle dans 30 minutes. À 19h, comme tous les vendredis, le multiplex de Rotten Régal. Je sais que vous adorez ce moment. C'est pour lancer le week-end de Ligue 1 à venir. Un super week-end en plus avec le show entre Lyon et Lille. On parlera aussi bien sûr de l'AS Monaco qui reste sur une série de victoires incroyables. Et on va revenir bien sûr tout de suite sur la situation catastrophique des Girondins de Bordeaux. Il est possible qu'on ne revive plus jamais ce genre de soirée. Souvenez-vous.
De Zidane qui allume Monsieur Kaka. Ouais, il est bon en pivot.
Dugarry.
Le but de Christophe Dugarry. Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface.
Allez.
Frappe et but. Oh, quel but. Super, là, là.
Les cotes n'étaient pas tellement en notre faveur. La saison, on l'a gâchée par la cote de plein de choses. Mais autant aller au bout et gagner cette coupe.
Moi, je suis bordelais. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. On a fait le match qu'il fallait, gagner 3-0 contre le Grand Milan. C'est exceptionnel, j'en reviens pas.
On s'en souvient de ce match et de ses commentaires. Ouais. Philippe Bruet, Michel Platini. Un Michel Platini complètement fou sur les buts bordelais.
Ouais.
Hein. C'était magnifique, Bordeaux-Milan 96. Évidemment, les Girondins de Bordeaux qui hier ont donc annoncé que King Street, l'actionnaire américain, se retirait et que le club était placé sous la protection du tribunal de commerce. Nicolas Paul Orsi, notre correspondant à Bordeaux, est avec nous. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous.
Alors, évidemment, on t'a eu beaucoup hier dans Top of the Foot. Aujourd'hui, un petit peu d'optimisme avec peut-être plusieurs options possibles, dont celle d'une reprise du club. Il y a plusieurs investisseurs qui se montrent intéressés.
Mais c'est ce qu'on disait hier, en fait, cette nouvelle. Alors bien sûr que c'est une nouvelle inquiétante parce que tu perds ton actionnaire majoritaire, tu perds l'actionnaire qui mettait 20-30 millions tous les 6 mois pour essayer de combler le déficit et de maintenir le club dans l'élite. Maintenant, on sait qu'il y avait des gros problèmes de gestion au sein de ce club. Et l'avantage avec cette annonce hier, c'est que pour les repreneurs, désormais, le club vaut 0 euro. Et donc maintenant, il va falloir mettre de l'argent en fonction de la dette.
Ouais, donc c'est pas zéro alors.
C'est pas zéro. Mais ce que je veux dire, Jérôme, c'est que à l'époque, quand tu négociais avec King Street pour essayer,
t'avais un montant avant de
t'avais
de parler
un montant
de la dette.
Et en plus t'avais la dette et éventuellement le déficit derrière qui chaque saison augmente. Alors que là, désormais, ton club il vaut zéro. Donc on sait qu'il y a des candidats qui sont intéressés. Et le maire de Bordeaux qu'on a eu hier d'ailleurs dans Top of the Foot, mais qu'on a revu ce matin, nous a bien confirmé que il échangeait avec deux candidats sérieux.
Ouais, c'est ça.
Pierre Urmic, voilà.
Ouais. Pierre Urmic, exactement. L'homme au sapin, c'est vrai, c'est pas mal. Ça lui va bien.
Ouais, ça lui va bien.
Il va être content. Il va être content d'avoir.
Bien sûr.
Et deux candidats, je vous le disais, donc Bruno Fievet qu'on a eu hier dans Top of the Foot et Pascal Rigaud qui est un entrepreneur bordelais, enfin qui est né en Gironde et qui a fait fortune aux États-Unis. Il a monté un concept de boulangerie à la française aux États-Unis et voilà, lui il est intéressé par le club. Dans le projet de Pascal Rigaud, et c'est ce qu'a sorti il y a 3-4 mois nos confrères de Sud-Ouest. Il y a Stéphane Martin, l'ancien président du club, donc c'est un projet assez sérieux et ils essayent de vraiment monter quelque chose. Donc eux, ils pourraient monter au fond. Donc ça, c'est plutôt positif. Juste la deadline et le timing, parce qu'on sait qu'il va falloir que les repreneurs se positionnent assez vite, sinon le club risque pour le coup une rétrogradation. C'est pour ça qu'il va falloir se positionner assez vite. Dans ce genre de procédure, on dit que maximum ça va durer 3 mois. Dans le cas des Girondins de Bordeaux, ça pourrait s'accélérer parce que c'est un club historique du foot français et que c'est un dossier prioritaire pour le tribunal de commerce de Bordeaux. La mairie qui nous a dit tout à l'heure, et Pierre Urmic nous a dit, en tout cas nous, on va avoir un droit de regard et on sera très attentif. On va participer au choix du futur repreneur. Ouais, on veut que ça reste.
Ils sont gentils, la mairie. Les...
dans l'ancrage local.
Non mais qu'est-ce que tu veux dire, Capitaine?
Ben c'est déjà qu'il en ait un, le maire. Qu'il au moins, s'il en a un qui mord à la meçon, un seul.
On ne va pas le contrarier.
Et bon, il aura le choix. Le choix sera très facile. Mais vous imaginez, parce que chaque jour qui passe, je crois qu'on a commencé la semaine, on était entre 35 et 40 de dette.
Oui.
On la termine à 80, hein.
Ouais, la dette, Capitaine, déjà, Frédéric Longuepée, pour le coup, avait communiqué sur cette dette en janvier, quand il avait présenté ses vœux à la presse, et déjà, ils avaient estimé ce chiffre entre 60 et 80. Mmh. Après, en fait, il y a deux choses bien distinctes. 60 et 80 millions, c'est le déficit. C'est ce que tu perds à la fin de chaque saison. La dette, c'est ce que tu dois rembourser à tes créanciers. En l'occurrence, King Street a emprunté de l'argent à Fortress, a emprunté 40 millions pour acheter le club, 40 millions avec des intérêts. Et donc, on chiffre cette dette autour de 50 millions. Mais le déficit est plus important. Il faut bien vraiment faire la distinction entre les deux choses.
D'accord. Donc, il y a la dette, on est d'accord qu'il y a la dette à rembourser et après, donc, il y a le déficit à rajouter.
Oui, mais tu peux racheter un club avec la dette et après récupérer le déficit. Tu gères ton déficit. Bon, après, ton club sera endetté tous les ans, mais tu peux garder ton déficit. Donc, il faut après gérer ça avec la DNCG.
Non, mais moi, il y a quelque chose. Moi, je veux bien qu'on entende monsieur le maire. On l'a entendu hier dans Top of the Foot. Il n'y a pas de souci. Là, il donne encore son avis. Mais je pense qu'il se rend pas compte, et c'est le ressenti qu'on avait hier avec Jean-Michel quand il a parlé. Il se rend pas compte de dans quel état est les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver aux Girondins de Bordeaux? Il y a des exemples, on les a cités hier. Bastia, Strasbourg, qui étaient des clubs historiques. Alors peut-être pas à la hauteur de Bordeaux, en effet. Où là, c'est une chape de plomb hein, qui tombe d'un seul coup comme ça. On s'y attendait pas, du moins à ce moment-là. On savait que ça allait pas très bien dans le club, mais je pense que monsieur le maire se rend pas compte du danger du club aujourd'hui.
Mais il n'est pas inquiet, hein. Il nous a dit qu'il n'était pas si inquiet
hier,
que ça.
On l'a senti. Mais comme disait, et c'est même pas moi qui le dis, c'est hier on a reçu un supporter des Girondins qui a parlé avec son cœur aussi et qui nous disait ce que le maire avait dit quand il avait pris ses fonctions sur l'équipe dirigeante des Girondins de Bordeaux, qu'il allait s'en occuper, tout ça. Il y a rien qui a changé. Au contraire, plus ça allait et plus il allait dans le sens de Frédéric Longuepée. Donc c'est dire que les supporters étaient aussi contrariés.
Mais le problème,
les écologistes aiment beaucoup le vent. Oui.
Non mais le problème, Capitaine, c'est que les Girondins de Bordeaux, c'est une entreprise privée. La mairie n'a aucun droit de regard. Tu peux pas faire virer PDG d'une entreprise privée.
Nico, je veux bien que tu fasses pas. Mais il me semble qu'il joue dans un stade qui visiblement n'est pas tout à fait privé, non?
Mais ça, oui, alors c'est très compliqué le financement du stade. Mais oui, en effet, il y a des financements publics. T'as raison, il y a des financements publics.
Bon, alors ils sont hébergés chez le public, mais il faut rien leur dire. Bon, même s'ils paient la location, j'imagine.
Ouais, oui, très cher d'ailleurs. 3,7 millions l'année, la location du Matmut Atlantique.
Ah, c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Lille, où à un moment donné, ça atteignait 7 millions d'euros. Donc, tu vois, c'était presque.
Il est deux fois plus petit, c'est pour ça.
Oui, presque un cadeau. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte aujourd'hui. J'en veux pour preuve, et je voudrais avoir une pensée aujourd'hui, là, à l'instant où je parle, pour Roland Romélier qui est pas bien. Qui
à Saint-Etienne.
À Saint-Etienne, qui a des problèmes de santé.
Ah, on l'embrasse.
Saint-Etienne a présenté des bilan financier au cours des 15 dernières années, positif. Cette année, le club est en vente à 20 millions. D'accord ? Pour l'instant, personne ne s'est manifesté.
Alors,
donc, comment voulez-vous qu'un club... Moi, je veux bien, mais qu'un club qui en a 80 ouais. sous le coude et qui, tous les ans, en perd 30, intéresse les gens. Moi, je veux bien. Je souhaite le
Après,
meilleur.
Après, Bordeaux, ça peut être une marque par rapport à la ville, la situation de la ville,
l'histoire du club.
Tu n'as pas le droit de faire du pub, de la pub avec le vin.
Bon, en tout cas, on verra si ces investisseurs vont sortir du
bois. Et juste, François, toute petite info, très court, mais Pierre Urmic a aussi évoqué, le maire, la possibilité d'un système de sociaux, un peu comme comme à Bastia,
l'a
fait.
Voilà,
avec des supporters qui rentreraient au capital du club, il a dit qu'eux, ils réfléchissaient à ça, que ça pouvait être une éventualité.
Quand t'as 1 million ou 2 millions d'euros de coût, ça va, quand t'as la 80...
Quand t'as la 80, je suis pas sûr que...
Je sais pas.
Il va falloir en faire rentrer beaucoup, ces supporters.
Ah oui.
Merci beaucoup Nico. On te retrouve à 19h.
Salut Nico. À tout à l'heure. Merci pour le multiplex.
On va parler du match quand même, Lorient-Bordeaux, parce qu'il y a un enjeu aussi sportif très important pour les Bordelais. On en parlera avec toi Nico dans un instant. Je voulais vous faire écouter deux réactions au sujet de Bordeaux. D'abord celle de Christophe Dugarry, qui était de retour sur RMC hier, pas pour une malheureusement une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Écoutez ce qu'il pense de King Street et des actionnaires qui ont quitté Bordeaux.
C'était inévitable, on le savait maintenant, bon, que c'est des ordures, les types qui étaient à la tête du club, on le savait, on l'a dit et redit depuis des mois, voilà, écoutez, longue épée va dégager, c'est ce qu'on attendait tous, voilà, je pense qu'il va y avoir des repreneurs, il va y avoir des gens qui vont reprendre le club, j'espère que ce club va retrouver son identité, son âme, les gens qui étaient aux manettes depuis maintenant, ça va faire 2 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils ont tout fait pour couler le club avec des décisions qui ont été pratiquement toutes mauvaises, entre les conflits, le conflit avec les supporters, les joueurs surpayés, les mauvais choix stratégiques. Voilà, il faut que tout ce beau monde-là dégage et surtout ne revienne plus dans le football.
Voilà, ça c'était la réaction de Christophe Dugarry que l'on a eu hier dans Top of the Foot. Autre réaction aujourd'hui, Zinedine Zidane à Madrid, avant le match du Real Madrid. Il a été interrogé sur son ancien club par un confrère français et il apporte son soutien aux Girondins de Bordeaux.
Ça me laisse pas du tout indifférent, et bien au contraire. Et c'est vrai que la situation n'est pas agréable. Moi, comme ancien Girondin, ce club m'a apporté tellement de choses que oui, je suis et j'ai parlé avec des gens à Bordeaux et j'espère que la situation va bientôt s'arranger à tous les niveaux en tous les cas et total soutien à ce club de cœur. Et voilà, et je serai toujours derrière de toute façon les Girondins de Bordeaux, ça c'est clair et net.
Zinedine Zidane qui n'a pas hésité à parler des Girondins de Bordeaux.
Non, mais c'est bien de pas.
On l'a critiqué cette semaine pour ne pas avoir donné son avis sur la Super League.
Il aurait pu greffer ce discours-là et on va peut-être faire un montage où, au lieu de parler des Girondins de Bordeaux, on greffe ça, on met la Ligue des
Champions à la place des Girondins de Bordeaux.
Parce que c'est exactement les mêmes phrases qu'on attendait de sa part. Mais c'est bien qu'ils soutiennent. De toute façon, je pense que ce club, et moi j'y ai pas joué dans ce club, mais tu sens qu'il a marqué les joueurs qui y sont passés, toutes les générations confondues, celles qui ont gagné, celles qui ont moins gagné. Tu sens qu'il y a un vrai soutien parce que c'est un club historique. Moi j'ai grandi avec ce club-là. Je suis tombé amoureux du foot parce qu'il y avait Bordeaux aussi qui existait dans le paysage du football français. Et que moi ça me contrarie quand je te parlais dans le sommaire là, quand je présentais l'émission, que la semaine a été difficile, que ça soit cette Ligue des Champions, du moins cette Super League, plus derrière les Girondins de Bordeaux. Ouais, moi je suis passionné, c'est mon sport, j'ai envie de le protéger. Et moi, ça m'embête de voir des clubs dans cette situation-là. C'est une situation dramatique. J'espère de tout cœur que ça va s'arranger, qu'ils trouveront une solution. Mais je suis pas si optimiste que ça, comme certains peuvent le dire.
On voudrait élargir un petit peu.
Ce n'est pas le premier d'une longue
série. Justement, on voudrait élargir le débat sur ça, Captain. King Street qui explique son retrait. On l'a lu dans le communiqué par la situation catastrophique avec la pandémie, évidemment, le fiasco Media Pro. D'autres clubs peuvent peut-être s'inquiéter au vu de cette situation économique. Est-ce que l'exemple bordelais doit alarmer le foot français? Voilà les questions qu'on vous pose. N'hésitez pas, le 32-16 pour réagir. C'est vrai qu'on a l'impression que Bordeaux peut être le premier d'une longue série.
Oui, j'espère pas. Mais en tout cas, les fonds d'investissement, on se rend compte, là, on l'a vu, que de toute façon, l'intérêt d'un club, l'histoire d'un club, ils en ont rien à carrer. Ils sont là pour faire de l'argent. Ça, on le sait très bien. Hein, quand tu vends à ces fonds-là, ils sont pas là pour perdre de l'argent et pour faire plaisir aux supporters. La preuve, concret à Bordeaux, où c'est Christophe, du gars qui nous racontait que de A à Z, ils ont fait tout à l'envers. Oui, parce que le problème de ces fonds-là, c'est déjà, tu sais pas, quand ils décident de se retirer, quand ils perdent de l'argent, comme dit Jean-Michel. Donc, ça peut arriver du jour au lendemain. L'exemple concret de Bordeaux hier. Ils te pompent ça, ils s'en foutent du match de ce week-end qui est important, la saison qui est pas encore finie. Non, ils ont décidé, voilà, ils te l'annoncent. Donc ça veut dire vraiment que la stratégie, elle peut être dure aussi avec d'autres clubs qui sont de ce côté-là. Et puis après, il y a surtout comment ils s'encadrent, à qui ils font confiance sportivement. Ça a été une catastrophe de A à Z à Bordeaux. De A à Z, ils se sont trompés sur toute la ligne. Donc aujourd'hui, c'est l'effet boomerang. Ils prennent tout dans la tronche. Et en effet, alors j'espère pas que ça va arriver à d'autres clubs qui sont aujourd'hui avec des fonds d'investissement. Mais voilà, la pandémie, ce qu'on est en train de vivre actuellement, les droits télé, les trucs, il y a beaucoup de pertes dans beaucoup de clubs.
Mais au-delà des fonds d'investissement, il y a des gros problèmes financiers dans beaucoup de clubs. Droits Saint-Étienne, évidemment. Tout ce qui est lié aux droits télé, puisque je regardais justement les droits télé dans le budget des clubs la saison dernière. Pour Bordeaux, c'était plus de 60% du budget du club, les droits télé. Angers, c'est 68%. Par exemple, Lille, c'est 62%. Et c'est plus de 50% à Nantes, 57% pour Saint-Étienne.
Non, mais il faut des mecs
qui sont liés aux droits télé.
Avant de laisser la parole à Jean-Michel, il faut des mecs passionnés dans le foot. C'est ce qu'on réclame. Il faut. Alors, je veux bien que ceux qui ont l'argent, c'est pas forcément des gens qui sont hyper passionnés, hyper connaisseurs. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum quand on investit dans un club pour faire vivre un club, faire confiance à des personnes qui sont là, qui sont du milieu du foot. Eh ben, il faut au moins t'intéresser un minimum. Tu vois, moi, McCourt, il fait des bonnes choses, du moins des bonnes choses. Il en a fait des bonnes et des moins bonnes à Marseille. Il n'a pas fait que du négatif, on est d'accord. Mais McCourt, le football, on s'en rend compte, il n'en a rien à carrer. Et comme d'autres, et ça, c'est un problème. Je pense que le football français doit être plus regardant de qui devient propriétaire d'un club. Il n'y a pas que l'aspect financier. L'exemple type qu'on doit mettre en avant, c'est les droits télé. Aveuglé avec le milliard. Aveuglé. Tout le monde a été aveuglé. Ils sont tous tombés dans la nasse et aujourd'hui ils essayent de s'en sortir. Et je dis on parce que je suis avec eux. On essaye de s'en sortir financièrement. Et ben les propriétaires des clubs, quand les clubs sont à vendre, il faut aussi qu'ils mettent ça en avant. Il faut avoir un regard différent.
Et non, encore, mais quand ils sont à vendre, en général, c'est que ils sont déjà à l'agonie et qu'ils sont déjà donc ils vendent au plus offrant au premier. Mais les signaux d'alerte qu'il y a eu sur le foot français, personne n'en a tenu compte. Hein. Je sais pas, j'ai pas été cherché parce que ça m'intéresse qu'à moitié là-dessus. Mais vous rappelez qu'il y avait du côté de Sochaux, il y a bien eu un fonds chinois.
Oui, propriétaire chinois. Bah, c'est parti en vrille.
Et Dieu sait si du côté de Sochaux et de la famille Peugeot qui était carré dans qui était carré, ils ont quand même cédé au sifflement des sirènes. Voilà, ils y sont allés. Ça vous a pas interpellé quand même la façon dont en deux coups de cuillère à peau du jour au lendemain, monsieur Lopez et son fonds d'investissement sont partis de Lille pour laisser la place à un autre président? Je pense que de toute façon il devait y avoir des problèmes. C'est pas possible.
On le sait, que c'était parce qu'il y avait une grosse dette qu'il fallait absolument rembourser et qu'il y avait beaucoup trop d'argent.
C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est dans un football qui est champion du monde. Et vous connaissez la fable, là, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Je pense qu'il faudrait que ces fonds d'investissement qui réussissent en Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est une autre planète.
Mais ils résistent pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent, Jean-Michel.
Mais bien sûr. Il y a plus d'argent, il y a plus de passion, il y a plus de supporters.
On ne peut pas à la France. Effectivement.
Mais absolument pas. Ouais. Et j'espère, j'ose espérer qu'enfin, on saura tirer la leçon. J'en suis pas sûr.
Allez.
Mais bon,
On va essayer justement.
Le drame est tellement important qu'on va quand même. On va pas laisser toutes les plumes, non ?
Non, on va essayer justement de trouver des solutions. On est là pour ça dans Rotten Régal. Hein. Pourquoi pas ? Il faut un grand changement du côté du football français.
Moi, je peux pas.
On
moi,
continue
je peux
d'en
pas,
parler avec Captain, avec Jérôme, bien sûr.
Peut-être avec Jérôme.
Et avec vous, 32-16.
T'as pas voulu prendre la Fédé.
Restez avec nous. Ah. On continue à en parler.
Pour toi.
RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme
Rotten. 18h20, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, avec François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. Allez François, on continue avec les Girondins de Bordeaux. On va échanger avec des auditeurs.
Bien sûr, dans 15 minutes, n'oubliez pas, l'élève contre le maître, au cœur du débat ce soir, c'est l'avenir de Thauvin à l'Olympique de Marseille. Avant de prendre Vincent au 32-16, je vous donne une petite info concernant les Girondins de Bordeaux. On retrouvera Nico Paolorsi à 19h dans le multiplex, mais ils sont actuellement à côté de Lorient, à Pleumeur, pour préparer le match de dimanche contre Lorient.
Oui.
Et d'après Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne, les joueurs ont appris la nouvelle hier de la voix d'Alain Roche, le directeur sportif. Et ce matin, il y avait Johan Gourcuff qui habite Pleumeur maintenant pour accueillir les joueurs. Et Jean-Louis Gasset, on les a vus d'ailleurs se serrer dans les bras puisqu'ils s'étaient côtoyés lors du titre bordelais en 2009. Gasset était l'adjoint de Blanc à l'époque. Présent également le président Frédéric Longuépé.
Tu vois que c'est quand même dramatique pour les joueurs. Je me mets dans la peau des joueurs. T'imagines que tu l'apprends la veille d'un match comme ça, t'es en stage par la voix de ton directeur sportif, mais quel manque de respect quand Christophe Dugas disait hier que ce sont des ordures vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait là. Mais pour dire qu'ils ont aucune classe, aucun respect,
ils ont peut-être même pas regardé le classement de toute façon.
Non, mais c'est quand même
pas s'ils sont
courants. C'est pour ça, tu vois. C'est mais et puis que t'entends Longuépé qui te dit moi je vais rester, mais qu'est-ce que tu
Alors il reste jusqu'à ce que Bordeaux change de
Mais il aurait dû, de la minute où il reçoit le mail de King Street qui se retire, mais barre-toi. Tous les gens attendent que ça. Il reste quoi faire en fait? Quoi faire? Dites-moi, pourquoi il reste?
Il faut bien qu'il y ait un président, les affaires courantes.
Mais un président aujourd'hui dans l'état des. Mais le président, il sert plus à rien aujourd'hui. Excuse-moi.
Il va bien dire.
C'est lui qui va rechercher un investisseur.
Des affaires, non ?
Non, c'est le mandataire qui doit chercher un investisseur.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Je ne sais pas. En tout cas, on va demander à Vincent.
Tu crois qu'il va signer l'échec ?
Bah, je sais pas. Il y a des salaires à verser encore.
Non, mais
en tout cas.
C'est incroyable. Incroyable.
Vincent a fait le 32-16, supporter des Girondins de Bordeaux dans Rotten Régal.
Salut Vincent.
Bonsoir.
Salut Vincent.
Alors, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone, vu vos carrières footballistiques.
Merci, c'est gentil.
Merci, je te remercie.
C'est gentil. François est flatté.
Ouais, franchement, vraiment. C'est une belle carrière.
Bon, Vincent, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles, et tu le sais très bien, à mon avis, moral est atteint, non?
Oui, j'ai appris sur RMC, j'écoutais à la radio, et quand j'entends, quand j'ai entendu ça, je suis tombé des nues, même si, franchement, ça nous pendait au nez, vu ceux qui sont à la tête depuis, maintenant, 2 ans. Malheureusement, je pense que ça nous pendait au nez, mais je m'y attendais quand même pas là, maintenant, tout de suite, qu'ils allaient partir comme ça, c'est comme si on était rien, en fait. Ils ont dit, bon, nous, on part, c'est bon. Ils pensent au futur pour nous, rien du tout.
Bah, c'est pour ça que tu peux. Alors même si en effet tout n'était pas au beau fixe, c'est loin d'être le cas, c'est sûr. On l'a vu avec les supporters des Girondins de Bordeaux qui allument souvent la direction. Mais tu peux pas t'attendre à ce moment-là à cette crise-là. On pouvait s'attendre à une revente du club. Au pire, ils cherchaient, d'accord. Mais de baisser les armes comme ça, de dire bon bah écoutez, maintenant vous démerdez, nous on payera pas. Forcément, tu peux être que surpris de ce côté-là. Et t'as peur pour l'histoire de ton club, quand même, pour la suite de ton club.
Ah, totalement. Même si j'entends que voilà, il peut y avoir des repreneurs, mais ça se trouve, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Donc ça se trouve, peut-être qu'on n'arrivera jamais à se relever de ça. Donc oui, j'ai extrêmement peur pour le club. J'ai pas envie devenir comme les anciens clubs qui ont disparu un peu du foot français. Manière de ce que vous avez cité avant, je suis désabusé. Effectivement, j'ai extrêmement peur.
Alors quand on entend le maire Pierre Urmic qui dit il faut que les supporters se regroupent, pourquoi pas une assemblée de supporters un peu à la mode socios.
Tu vas arrêter de nous parler du maire, tu fais clair quoi. On t'a dit avec Jean-Michel, on veut pas l'entendre.
Je demande à Vincent qui est supporter.
Ah ouais, en sachant quand même.
Mais je veux pas parler politique. Je parle de Vincent qui est supporter.
En sachant Vincent et Vincent le sait mieux que quiconque, en sachant quand même que lorsque les supporters ont tiré la sonnette d'alarme, ils défilaient avec eux. Et que 6 mois plus tard, ils leur disaient « Mais non, finalement, Longuepé, c'est un mec formidable. » Enfin, dites-moi, il doit avoir la doublure de la veste dans un drôle d'état, non, me semble-t-il. Parce que pour retourner sa veste,
moi, c'est de toute façon, après l'histoire du sapin, je lui ai jamais pardonné.
Voilà. Bref, l'histoire
plus
du sapin,
le foot,
c'est
alors là, imagine.
Non, ça sentait le sapin, en revanche, pour les Girondins de Bordeaux.
Ah, bravo. Bravo.
Bon, il était facile. Vincent, non, mais je reviens quand même sur cette question, sur une histoire de socios à Bordeaux. Ça peut-être tenter les supporters bordelais.
S'ils ont bronzé, oui.
Bon, après, faut voir comment ça marche exactement. J'avoue, je sais pas, je connais pas.
Il faudra mettre un peu d'argent.
Mais je pense que c'est limite qu'il faudrait, parce que voilà, vous avez dit les ultras, ça fait les supporters, et ça fait un moment depuis quasiment que King Street est arrivé qu'ils ont dit que c'était bancal. Donc on se rend compte du coup quasiment qu'ils avaient raison depuis le début. Après, même si je pense que tous les supporters n'en doutaient pas beaucoup. Et effectivement, quand après, c'est vrai que là, vous parliez du maire. Il dit qu'il mettait sa tête dedans.
Bon, là, il est obligé de le faire.
Pour calmer François, les supporters aujourd'hui, ils s'étaient regroupés lors de leur première manifestation à 3000, d'accord? Et ce qui veut dire que pour éponger les 80 millions d'euros, il faudrait qu'ils versent chacun 300 000 euros. Ah. 266,666 euros.
C'est un peu beaucoup d'argent.
Ouais, ça fait,
Bordeaux
fait
est une ville de riches, mais quand même.
Il faudrait
faudrait que les 3 000 versent deux. Mais arrête de les faire rêver. Quand tu parles d'une solution avancée par quelqu'un qui n'a même pas fait le calcul, divisé 80 millions par le nombre de supporters.
C'est prendre l'exemple avec les clubs qui ont mis ça en place. En l'occurrence, ils nous citent Bastia. Mais Bastia, il faut savoir que déjà, ils sont repartis de la Nationale 3. Ouais. Donc le club était pour zéro. Et qu'il n'y avait plus de déficit. C'est qu'aujourd'hui, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de déficit. Un supporter qui investit dans un club, du moins les groupes de supporters qui investissent dans un club, il faut au moins que tu arrives à zéro. Tu peux pas te permettre tous les ans de perdre, comme on dit, un déficit de 70 millions d'euros tous les ans. Mais le supporter, il va faire quoi là-dedans?
Allez, on remercie Vincent. Vincent qui, pour la première fois, est passé dans une émission de sport sur RMC. Hein. Merci Vincent. Merci beaucoup. Dans un instant, le duel Captel face à Jérôme autour de
Derby contre Libourne.
Lorient Thauvin. On va parler de l'Olympique de Marseille. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
18h32, toujours dans Roten Régal. Allez, pour cette dernière demi-heure de la première heure, François Pinet, Jean-Michel Larquet. On va maintenant, c'est l'élève contre le maître.
Oui, c'est ça.
Il veut m'affronter.
Comme d'habitude.
C'est même pas un affrontement parce que je pense qu'on
n'est pas loin de.
Florian Thauvin.
On va en parler dans un instant.
Il y a la présentation du journal moyen.
Et dans 15 minutes, c'est le journal moyen avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Salut Roten Régal.
C'est moi l'idole qui est là.
Vous aviez cédé au sifflement des sirènes, quelque chose comme ça.
Mais j'ai dit les sifflements, oui. Ah. J'arrivais pas à trouver.
On en reparlera.
Les sirènes.
On en reparlera dans le journal moyen de Roten Régal. Les pensées de Manu Petit, et on va aller au plus profond du cerveau.
Pour les sirènes. Elle remue la queue pour appeler le matelot. C'était quoi exactement?
Non, au lieu de céder aux sirènes, tu as cédé au sifflement des sirènes, Jean-Michel. Donc les pensées de Manu Petit.
Elle faisait beaucoup de bruit.
Bon, tu le laisses présenter son journal moyen.
On ne sait pas ce qu'il y a dans le journal moyen pour l'instant.
Vas-y Morgane, vas-y, impose-toi.
Les pensées de Manu Petit, on va aller au plus profond du cerveau de Roland Courbis. Prenez vos calculettes, c'est très compliqué, mais pour Roland, c'était très clair.
Ok, très bien. Ça sera dans 15 minutes, bien sûr. Merci Morgane, à tout à l'heure. Tout de suite, Jérôme face à Captain, c'est l'affrontement.
RMC.
Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Excusez-moi, mais qui êtes-vous?
C'est un jeune coq avec une vieille poupe.
Non, c'est Jean-Michel.
Le maître contre l'élève.
On est déjà dans le quiz, alors.
Non, pas encore. Le quiz, c'est à 19h45. N'oubliez pas ce grand moment. Florian Thauvin est en fin de contrat. Hier, en conférence de presse, Sampaoli, ton ami Sampaoli, capitaine, a encore expliqué qu'il aimerait que son joueur continue avec le projet marseillais la saison prochaine. Mais pour toi, capitaine, Thauvin doit pas rester à l'OM, c'est ça?
Je crois qu'il est temps qu'il s'en aille. Rien ne plaide pour qu'il reste, parce que d'abord, il a fait tout ce qu'il pouvait à l'Olympique de Marseille. Certes, il y a eu une longue période de blessure, mais lorsqu'il était en état de jouer, il a été parmi les meilleurs passeurs. Il a été toujours parmi les meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur de l'OM. C'était toujours entre 15 et 20 buts par saison. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce garçon-là ne peut pas rester à l'OM avec tout ce qu'il a fait sans succès. Sans succès aujourd'hui, qu'on va dire de manière collective. Et en plus, je pense que sur le plan individuel, il commence à perdre ses distances. Perdre ses distances notamment avec l'équipe de France. N'oublions pas qu'il était dans le groupe de la Coupe du Monde.
Oui, il est champion du monde. Hein.
Et qu'aujourd'hui, plein de latéraux offensifs, des milieux de terrain offensifs, lui sont passés devant. Évidemment, Coman, évidemment,
Dembélé.
Évidemment, Mbappé quand il joue sur un côté en équipe de France. Donc, je pense qu'il est en train de se perdre à l'Olympique de Marseille. Et puis essayer de rabibocher un vestiaire à partir du moment, et on le sait très bien, et Jérôme le sait aussi bien que quiconque, c'est que quand tu n'as pas d'atome crochu avec certains joueurs, tu peux faire semblant un peu, tu peux faire semblant une fin de saison, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les 5 matchs qui restent à jouer. Mais la vie entre Payet et Thauvin ne peut pas être un long fleuve tranquille. La vie entre Thauvin et certains de ses coéquipiers, on a vu un accrochage, même s'ils l'ont tourné en dérision avec Alvaro, ça ne peut pas être non plus un long fleuve tranquille. Donc je pense qu'il doit s'en aller. Il a d'énormes avantages. Un, il est libre. Deux, et là je me tourne vers Jérôme, un attaquant gaucher qui marque des buts dans une saison, je suis sûr que contrairement aux acheteurs des Girondins de Bordeaux, lui, il aura beaucoup de propositions. Donc je pense que pour son bien, pour redonner un élan à sa carrière, il serait bien qu'il tourne à la page de l'Olympique de Marseille et qu'il s'en aille du club. On ne sait pas pour où, oui. On ne sait pas pour quel championnat, mais je pense qu'il ne manquera pas de propositions.
Jérôme.
Ouais, non, mais moi je suis sur la même lignée que je l'ai déjà dit, hein, que Jean-Michel. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément en contradiction. La seule chose qu'on peut mettre en avant que Jean-Michel n'a pas mise, c'est que Flo, il a quand même marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a mis beaucoup de buts, il a donné beaucoup de balles décisives, il a souvent été là dans les moments clés du club aussi ces dernières années. Avant sa blessure l'année dernière, bah c'est vrai qu'on pouvait pas lui reprocher grand-chose. Il s'était vraiment investi parce que c'est son club de cœur, et ça je le sais parce que Flo est mon ami. Donc il s'est accroché à ce club, même dans des choses par moment qui étaient désagréables, dans la renégociation de son contrat par exemple, où il n'a pas vu la prolongation arriver quand elle devait arriver. Aujourd'hui il se retrouve en fin de contrat, en effet. Et moi je suis pas dans sa tête, en fait. Je sais pas ce qu'il a au fond de lui. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui nous rassemble de ce côté-là, c'est moi l'histoire que j'ai vécue au Paris Saint-Germain pendant 6 ans, le déchirement de partir, même si c'était mon choix, mais c'est toujours un déchirement quand tu pars de ton club de cœur, un club où t'as toujours rêvé de jouer quand t'as commencé à jouer au football quand t'étais jeune. Donc j'imagine que pour lui c'est un gros bouleversement de refuser ces prolongations de contrat qui sont arrivées au mois de décembre par exemple. tardivement, certes, mais elle est quand même arrivée. Il l'a pas signé, donc c'est au fond de lui. Il sait aussi, même s'il y a eu changement d'entraîneur aujourd'hui et que le discours de Sampaoli est peut-être rafraîchissant pour lui aussi, mais en effet, il y a un élément qu'on peut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effectif qui est comme ça, que vu les finances de l'Olympique de Marseille, cet effectif-là, il va pas changer aux trois quarts, c'est pas possible.
Il y a grande... il peut changer, mais pas oui, s'améliorer.
Mais il peut changer, mais une grande majorité des joueurs seront encore là l'année prochaine. Et que, en effet, pour évoluer à un bon niveau, et encore plus quand t'es à Marseille, je pense que t'as besoin d'un collectif fort. Et aujourd'hui, ce qu'on a ressenti entre Payet et Thauvin, qui sont les deux joueurs phares de cette équipe, quand tu vois, même s'ils ont déjà évolué à un très bon niveau ensemble, hein, ils arrivent à mettre ça de côté. Ils l'ont souvent fait, hein, depuis le retour de Flo d'Angleterre et de Payet à West Ham. Ouais. Je pense qu'ils ont réussi à mettre leur animosité de côté. Mais là, c'est aller trop loin. Et que repartir sur une autre année avec ces deux joueurs-là, je pense que le club doit faire un choix. Donc, apparemment, Sampaoli a décidé, et il le dit en conférence de presse, de vouloir garder Flo Thauvin. Ça doit lui faire plaisir, en effet, de voir qu'un entraîneur veut aller plus loin avec lui. Ok, sauf que qu'est-ce qu'on fait de Payet ? Parce qu'aujourd'hui, Dimitri Payet, moi, je veux bien qu'il soit revenu en forme, que ça aille mieux. Bien sûr que quand il est affûté comme il l'est depuis quelques matchs, bien sûr que il a quelque chose dans
ça
le
va
pied.
Revenir, hein.
Il a
ça
quelque
va.
Chose dans le pied, tout ça. Mais son manque de professionnalisme, son manque d'investissement dans ce club, même en termes de communication. L'année galère que Marseille a subi, tu peux pas l'effacer comme ça d'un cloquement de doigts en disant ah bah là maintenant on est au mois d'avril, il a préparé le sculpte du corps, tu vois, il l'a préparé pour l'été. Au bord de la piscine, il va être bien, il va être affûté. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas manquer de professionnalisme comme ça. Et pour moi, le club doit trancher dans le vif. Déjà sur Payet, et pourquoi pas sur Thauvin. Thauvin, c'est pas la priorité aujourd'hui parce qu'ils veulent le garder. Mais encore une fois, je te dis, je suis pas dans sa tête. Mais vu qu'il avait plein de choses, lui, dans son cerveau depuis un bon bout de temps, je vois pas comment ça peut être effacé juste avec l'arrivée de Sampaoli.
Jérôme, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans son entourage proche, dans ceux qui s'occupent de ses affaires, c'est pas possible qu'un joueur, un attaquant, pied gauche, offensif, marquant 15 buts, 20 buts dans une saison, n'ait pas eu déjà des propositions. Donc,
et je pense que ça traîne vu le contexte, Jean-Michel, malheureusement.
Il y a plusieurs clubs je pense que, dont on parle,
non, mais,
Milan,
non, mais entre les clubs qui sortent et les vraies propositions que tu as, oui. Je pense qu'en effet, et c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Et je sais pas du tout les contacts qu'il a. À mon avis, il a aussi un plan de carrière après Marseille. Il s'est dit, bon, bah, Marseille, j'ai fait mon temps. Je veux partir. S'il a refusé la prolongation de contrat au mois de décembre, c'est bien ça. Dans sa tête, il avait ça. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être qu'en effet, les propositions que lui estimait être des bonnes propositions à l'étranger, elles ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il a des propositions d'autres clubs. Parce que je suis d'accord avec Jean-Michel. Je pense qu'il y a des clubs qui peuvent investir sur Flo Thauvin, sachant que ça coûte zéro, il y aura que le salaire à donner et une prime à la signature. Mais est-ce que les clubs vont satisfaire Flo dans leurs ambitions? Il a 28 ans.
Il aura 29 ans.
Il a encore des belles années devant lui.
Alors,
quand même.
Je voudrais prendre Frédéric quand même, capitaine. Je voudrais prendre Frédéric qui est supporter de l'Olympique de Marseille et qui a 32-16 pour parler de Thauvin.
Bien sûr, Frédéric.
Salut Frédéric. Non. Salut Frédéric.
Salut Fred, c'est à toi.
Je vous écoute là.
Ouais.
Ça veut dire qu'on peut aimer Thauvin, on peut ne pas aimer Payet, tout à fait d'accord. C'est vrai que Payet, c'est un manque de professionnalisme. Le talent, il a, ça, on le sait, ça, personne ne peut le nier.
Bien sûr.
D'ailleurs, je pense que s'il avait été affûté physiquement et s'il avait une autre mentalité, il n'aurait jamais joué à l'Olympique de Marseille, mais il aurait peut-être joué à Barcelone ou au Real Madrid, parce que le talent, il est, hein. Techniquement, je ne vois pas un joueur même plus fort que lui actuellement en français. Hein. Techniquement, pur, hein, ça veut dire ce qu'il fait avec un ballon. C'est incroyable. Bon, pour ce qui est de Thauvin, moi, ce qui me gêne sur Thauvin, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas un super joueur, on est d'accord.
C'est vrai.
Il va peut-être payer comme un super. C'est pas un super, c'est un très bon joueur. Et il y a une chose qui me gêne chez lui, si vous préférez, c'est que Thauvin, j'ai remarqué une chose, les avançants ne brillent très rarement à côté de Thauvin. Pourquoi? Parce que 3 fois sur 4, Thauvin, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre vers l'intérieur pour enrouler et pour essayer de marquer, et il sert pas tant que ça l'avant-centre. Et regardez le nombre de ballons qu'a mis, c'est pas extraordinaire. Hein. Et ça me gêne. Et il y a une autre chose, ou là, alors, c'est Jean-Michel qui me fait bondir. Quand j'entends dire, oui, mais Thauvin, il s'entend pas avec Payet, donc ils devront partir. Mais dans tous les clubs, ça a toujours existé des gens qui s'aiment pas spécialement, mais qui sont sur un terrain pour jouer. Même à l'époque du Grand Thauvin, il y avait des gens qui qui ne s'appréciaient pas spécialement, mais une fois qu'on était sur le terrain, eh ben, on jouait, on avait pas mal de restaurants ensemble, mais ça ne pense pas qu'on peut jouer ensemble.
Il y a ne pas aller au resto, il y a comme disait l'autre, ne pas partir en vacances ensemble. Il y a comme disait l'autre, ne pas aller au restaurant ensemble à tout bout de champ. Et puis il y a avoir une véritable jalousie, animosité, ouais. Ce qui est le cas là. On est Frédéric. Et quand tu me dis, quand tu me parles des lacunes de Thauvin aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de l'OM?
Bah c'est lui, même passeur, hein.
Frédéric, qui est le meilleur passeur?
Attends, parce
de
qu'on l'avait coupé, Frédéric.
Ouais, Jean-Michel, j'ai Frédéric, pas dit qu'il n'était pas bon, j'ai pas dit qu'il avait des lacunes.
Non, mais tu m'as dit, tu m'as dit qu'il venait. Non, tu m'as dit un truc que je n'aime pas et que disent les consultants, les mauvais commentateurs, quand ils disent il rentre à l'intérieur. Oui, il rentre à l'intérieur, il va pas rentrer à l'extérieur, Frédéric.
Ça, non, on est d'accord, c'est, ça va, ça c'est un truc.
Frédéric,
moi je la fais pas, c'est la jeune chaîne.
Frédéric. Bon, Frédéric, une fois que je t'ai taclé, allez, je te dis simplement qu'aujourd'hui, ce garçon-là, il va avoir des propositions et ce garçon-là est un joueur de qualité qui ne peut pas continuer à Marseille parce que il ne progressera plus à Marseille.
Ok.
Il ne progressera pas.
Allez Frédéric, on est obligé de te laisser. Merci beaucoup Frédéric d'être passé dans Rotten Régal. Tu reviens quand tu veux évidemment sur RMC pour parler de Thauvin, pour parler de Payet, pour parler de l'OM. On revient tout de suite nous avec le journal moyen de Morgan Mori. On va aller dans la tête d'Emmanuel Petit et de Roland Courbis. Ça ne pas rater.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, bien sûr, toujours dans Rotten Régal. Allez, on finit la première heure avec le journal moyen, Morgan Mori, on attend ça.
Au sommaire du journal moyen de Rotten Régal, les calculs de Roland Courbis sur l'âge de Neymar d'ici sa fin de contrat. Attention, ça va faire chauffer vos ménages. Les pensées et les expressions mal employées de Manu Petit. Jérôme, François, je vous ai aussi noté pour ce journal moyen. C'est parti pour le journal moyen de Rotten Régal.
On est dedans. En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Rotten Régal.
Toute cette semaine, vous avez fait plaisir avec vos auditeurs, avec beaucoup de petites phrases qui ont fait mouche, mais une phrase, une pensée même a retenu mon attention, c'est celle du plus grand d'entre nous, Emmanuel Petit. La Super League, ça l'a énormément inspiré, Manu.
Ah oui.
Et quand on se retournera sur cet épisode, il restera au moins une phrase, ce sera certainement la phrase de Manu.
Le souci, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, que ça fait un petit moment et que dans ce chemin-là, sur cette autoroute, j'ai l'impression que bah, y a personne pour mettre un péage, en fait.
Et bam, voilà, merci Manu.
L'autoroute et le péage.
Il a tout résumé. Manu, il connaît les expressions de la langue française et il connaît la mécanique. Il a de la chance. Manu Petit, deuxième.
Il faut qu'on mette les doigts dans la prise pour savoir que le courant fait mal, quoi. Alors que tout le monde sait que ça fait mal. Mais le problème, c'est qu'il faut être confronté à la situation pour réagir. C'est toujours pareil, quoi. Il faut toujours qu'on nous mette le nez dans le cambouis pour d'un seul coup les gens réagissent.
Eh non Manu, on met les mains dans le cambouis.
Le nez dans le cambouis.
Tu mets le nez après il est sale.
Moi, je peux plus là parce que.
Le nez dans le cambouis, tu peux rester bloqué.
Avec mon sifflement des sirènes, je peux plus rien dire.
Tu peux plus te poquer là. François.
François. Non. Qu'est-ce qu'il a fait?
François, c'est ton tour. Tu as cédé aux pressions de l'audimat, on sait, les audiences, tout ça, c'est dur, ça pèse sur toi. Remplaçant Jean-Louis Tour, tu veux donner le meilleur de toi-même, mais malheureusement, tu as flanché. Au moment d'évoquer la victoire du PSG sur Saint-Etienne, 3-2, trop de pression et ta langue à fourcher.
Il marque, le contrôle il est bon, le choix il est bon. C'est vraiment.
On a l'impression quand même qu'on est en train de dire que le PSG qui passe quand même par le trou de la souris là, avec ce but dans la Ligue. PSG qui passe par le trou de la souris. Je m'excuse auprès de toutes les souris qui nous écoutent.
Ah, il a bien fait le petit trou de la souris.
C'est pas bon, je sais.
Il est bien connu, le petit trou de la souris.
J'ai eu une semaine parfaite et on me sort juste la phrase où je me suis trompé. Ah oui, malheureusement. Mais c'est ça les stars, hein, Jérôme.
Le trou de la souris.
Il rate un contrôle dans un match, il prend 7 au lieu d'avoir 8 et on retiendra que ça. Mais Jérôme, toi qui n'as jamais flanché dans les grands matchs à pression, je dis, tu as un petit lapsus au moment des
jeudi.
Au moment d'évoquer Lyon-Monaco.
On s'en fout du style. Si Lyon gagne la Coupe de France, on se souviendra pas du parcours en quart de finale qu'ils ont éliminé de telle façon, à moins que ça soit un match hippique et que ça donne un 6-5.
Oui.
Le match hippique.
C'est sûr que le match hippique de Monaco est très connu.
Mais t'es tombé dans le monde des courses, à mon avis, Jérôme, c'est sûr.
Je me voyais à Cagnes-sur-Mer. Quand j'étais à Monaco, j'allais toujours à Cagnes.
Avec Charlie Loubet et Jeanne Mauvaise.
Ah oui. Il y en avait des belles. Là-bas.
Alors on termine avec le plus grand. C'est un peu long. Roland Courbis, attention, mais ça vaut le coup. C'était dans le podcast After PSG. Grâce à Roland, je n'ai plus compris quel âge j'avais ni quelle était ma date de naissance. Grâce à Gilbert Bribois et Loïc Tanzi qui parlent de la prolongation de Neymar. Petit point pour nos auditeurs. Neymar est né en février 1992. Il vient d'avoir 29 ans. À la fin de son contrat en 2024, il aura quel âge ? La réponse de Roland Courbis.
Il aura 32 ans en 2024.
Combien ? 32. Il restera encore 2 ans.
Vous vous êtes un petit peu trompé.
Ah, 32, 2026.
Il va avoir 30 ans.
Oui.
Eh bien, s'il prolonge de 4 ans.
Il vient d'avoir 29.
Donc il aura 34.
Il vient d'avoir 29, il est sur 30, là. Donc il va avoir 30 ans, on est d'accord ?
Oui.
Donc il prolonge.
Donc en 2024, il a 33.
23 ans.
Mais non, il a un an de contrat, il prolonge de 4 ans. Vous me rajoutez 5 à,
oui, donc
à
2026.
30 ans, quand même.
Tu parles de 2026, alors.
Hein ?
Tu parles de 2026, la fin de son contrat.
On ne comprend rien. Ouais. Et c'est pas terminé. C'est écoutez dur. La suite.
Bon, chipote. Non. Je veux pas chipoter. Si j'ai tort, j'ai tort. Neymar va sur 30 ans.
Oui.
D'accord. Il a un an de contrat encore sur Paris Saint-Germain.
Donc, ça veut dire qu'il
aura 31 ans.
Il aura 30. On me dans la tête, c'est 31 ans, mais il aura 30.
En fait, si tu veux, il aura 34 ans à la fin de son contrat au PSG. C'est ça que tu veux dire?
Non.
Non.
tu rajoutes 4 ans à 31, pour moi ça fait 35.
Oui, donc il aura 35 ans à la fin de son contrat.
Tu comptes la 31e année, pas l'âge effectif.
Quand Roland tout on est, on a déjà un an. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux chiffres. Il a 29 ans, on calcule qu'en 2024, il aura 32. Non, on arrive à 31, à la dernière lame de coach.
Il avait gagné un an quand même.
Tu vois ?
Mais attends, quand c'est ton anniversaire,
ouais.
Le lendemain de ton anniversaire, tu as déjà bouffé un jour de l'année d'après.
Ouais, mais quand c'est ton anniversaire et que tu fêtes tes 25 ans, t'as pas 26 ans le lendemain.
Mais Neymar, il va sur 30 ans, il a déjà attaqué sa 30e année.
Roland, c'est quoi ta raison ?
Il a 30 ans, moins 6 mois.
Bravo Gilbert d'avoir abandonné.
Ah non, mais c'est tout est dans le podcast. Ils ont tout gardé.
Ouais, ils ont tout gardé.
Ah ouais, d'accord.
Il est bon.
Ah ouais, c'est énorme.
Et jusqu'au bout, hein, il va te.
Ah, mais Roland, il te dit. Ah mais si j'ai tort. Mais en fait quand il te dit ça, il dit non, en fait j'ai raison, oui. Et je vais te prouver que tu as tort.
J'ai peut-être tort, mais j'ai pas forcément raison. J'ai pas forcément raison.
Ouais. Oh, bon,
mais tu as peut-être tort.
Mais tu as peut-être
quel âge j'ai. Plus personne ne sait quel âge il a, je crois, autour de la table. Là. Bon, pas bref.
Alors, merci Roland.
Et c'est étonnant que les plus vieux parlent comme ça. En général, ils essayent de. Non mais c'est vrai, ils essayent de gagner un an.
Ah oui.
Là, si sa réflexion, il perd un an, Roland.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on bouffe un jour, effectivement.
Donc Jean-Michel, par exemple, n'aurait pas 74, aurait 75 ans aujourd'hui.
Non, je n'aurais pas 73, j'aurais 74.
Ah oui, mince.
Oh, mince. Mais à la fin de son contrat, il a combien ?
Quand même,
c'est ça.
T'as combien à la fin de ton contrat, Captain ?
À la fin de mon contrat.
À la fin de son contrat.
Donc là, si chaque fois que je pars à la retraite,
c'est fin juin.
Je ne pars pas à la retraite.
Oui. C'est quand ton anniversaire.
Je risque de vous emmerder au moment. Je vous l'ai dit. Hein.
Merci Morgane. Bon, en tout cas. Merci
bravo Morgane. Bravo.
Bon week-end à toi.
Morgane, c'est mon idole. C'est mon idole.
Merci.
Bravo.
Le multiplex de Rotten régale pour lancer la 34e journée de Ligue 1. C'est tout de suite. C'est à ne pas rater. On embrasse coach, bien sûr. Restez bien avec nous. À tout de suite.
RMC 18h-20h.
Rotten Régal.
RMC
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
18h59 sur RMC, bien sûr, toujours dans Rotten Régal pour cette deuxième heure avec, oui, François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. Allez François, maintenant on a fait le tour là, de cette semaine catastrophe. Maintenant on va se projeter sur le week-end.
Un magnifique week-end en perspective, en Ligue 1 aussi, en Europe. Hein, ne manquez pas.
J'ai hâte d'entendre mes correspondants.
Ouais, dans 30 minutes, il y aura aussi le week-end de foot européen avec Fred Hermel. On va parler de la Ligue 1, on va parler de Karim Benzema d'ailleurs. Encore buteur cette semaine. On sera aussi avec Julien Laurence pour des infos sur City avant d'affronter le PSG. C'est dans 5 jours. PSG
Kevin De Bruyne.
En Ligue des Champions. Ouais, ça a peut-être évolué d'ailleurs. Il y aura peut-être des nouvelles
infos. Ça évolue tous les jours. C'est bizarre.
Ouais.
Et à force, je vais avoir raison.
On va en parler tous les jours jusqu'à mercredi. Bah évidemment.
Je pense que mercredi soir, il sera au parc.
Évidemment. Inscrivez-vous aussi tout de suite pour le quiz de Rotten Régal. Team Jérôme ou Team Captain. Ouais,
bah
vous connaissez
ce quiz. Bah, c'est vrai que depuis 2021. Jean-Michel est dans le
pas beaucoup de victoires. Bon, on vous fait le 32-16 en tout cas pour vous inscrire. Et tout de suite, comme tous les vendredis, 19h, le multiplex de Rotten Régal.
RMC Rotten Régal.
Et la casquette Tissa, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Tissa.
Le multiplex.
Oh, j'en ai des frissons.
Il y a de ce commentaire là, le dernier.
Non, le but contre Metz. Non, le dernier, mais vous en avez rajouté un au milieu.
C'était celui de Bastia. Bastia.
Ah, t'as vu en Corse, c'était magnifique. Comme des fous.
Magnifique. Pour ce multiplex, on accueille le toujours leader jusqu'à peut-être dimanche, Jean Baumel à Lille, avant Lyon-Lille.
Ça peut mal se terminer. Bonsoir, François. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Captain. Bonsoir à tous.
Édouard Gey, notre correspondant à Lyon, est là. Salut, Édouard.
Salut, c'est bizarre que depuis le temps, on n'ait pas trouvé autant d'emphase sur un but de Jérôme Rotten de ma part. C'est vraiment bizarre.
Ah, bah là, tu pouvais pas t'enflammer. En plus, on a vu l'animosité qu'il y avait entre Lyon et Monaco. Alors imagine, quand avec Monaco, je marquais à Lyon. Ouais. Là,
La tête dans le seau, Edouard.
Puis fois. En plus, t'as jamais supporté que je ne vienne pas à Lyon.
En embuscade, Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, avant Angers-Monaco. Salut Clément.
Salut François, salut Captain, salut Jérôme. J'étais en train de regarder les courses prochaines, la Cagnes-sur-Mer, pour essayer d'y faire un tour, vu que c'était l'endroit préféré de Jérôme Rotten.
Appelle-moi, je vais te donner 2-3 tuyaux.
T'inquiète, il a des adresses. Et puis, retrouve Nico Paolorsi à Bordeaux. Rebonsoir Nico.
Rebonsoir. Je profite de chaque multiplex parce que ça se trouve dans 2 semaines c'est terminé.
Multiplex
Liga, ça sera peut-être plus.
Non, mec, la vente de Ben Arfa, ça va s'arranger.
Non, mais on le fait.
On va nous parler du maire. Ça
on le fait bosser là. Il va réussir à maigrir.
T'as vu. Lyon-Lille, c'est donc dimanche, l'affiche de la 34e journée. Match capital pour l'Olympique Lyonnais, 4e du classement, qui peut se retrouver en cas de défaite à 6 points du LOSC. On va commencer par les Lillois avec toi, Edouard. Est-ce que tu sens que tes Lyonnais peuvent gérer cette pression énorme?
Bah écoute, ça coûte pas bien plus cher d'être positif, hein, donc je vais l'être parce que je vous vois venir, tout allait bien en 2020 et puis depuis 2021, bah ça va moins bien pour Lyon, on est passé du vert à l'orange et désormais on est dans le rouge, hein, quand on voit ces 17 places sur le podium jusqu'au 3 avril et puis depuis le 3 avril, cette 4e place désormais, les Lyonnais qui ont été premiers, 2e, 3e, 4e, donc c'est une longue descente, donc c'est inexorable, je vous vois venir, mais je me dis que Lyon a quand même montré qu'il s'est géré deux nouveaux styles de jeu. On avait connu le 4-3-3, on a connu le 4-2-3-1 face à Angers et puis mercredi face à Monaco. Même si au résultat ça s'est pas terminé dans le contenu, c'était quand même assez intéressant le nouveau schéma de jeu. Et puis sans faire preuve d'optimisme BA, je trouve qu'il y a quand même du mieux en sachant que l'OL devait gérer et se relever de la déroute face au PSG. Et puis j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est tout chaud, hein, la conférence de presse de Mattia Deschilio notamment qui fait l'effort, lui en français, hein, lui qui est en France depuis très peu de temps.
Oui, ça, c'est bien.
Bah, il a utilisé les termes de ne pas se précipiter dans le match de dimanche. Nous avons du temps pour marquer. Il faudra être calme et on a de l'expérience pour avoir ce calme-là. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà du côté de l'OL switché de la déception, de la frustration de mercredi soir à mettre tout en forme pour être motivé pour le match de dimanche.
Moi, je le souhaite pour Lyon, en tout cas, qu'ils arrivent à trouver ce calme-là. Mais je suis sceptique sur plein de choses. Déjà sur l'attitude de Rudy Garcia, que ça soit pendant les matchs et après les matchs ou avant les matchs en conf de presse, mais ça c'est pas nouveau, tu vas me dire, mais il transmet ça à ses joueurs. Moi j'ai trouvé une équipe de Lyon contre Monaco, en effet, Edouard a raison, dans un système qui était différent, qui ressemblait au système de la Ligue des Champions, ouais. Quand ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions à Lisbonne, avec ses trois défenseurs, l'animation ressemblait à ça, la première mi-temps était très cohérente, mais il y a de l'excitation, il y a le manque de sérénité, et des joueurs qui s'énervent, à commencer par mon ami Dubois, que tu entends partout, sur le terrain, aboyer sur ses coéquipiers, souvent sur l'équipe adverse. Dès qu'il y a un coup reçu à l'opposé, il vient sprinter et puis il vient faire le justicier. Je pense que c'est des attitudes qui montrent quand même que la pression est énorme à Lyon. Elle existe, cette pression, elle existe sur les trois autres clubs qui luttent là dans le haut du tableau. Mais à Lyon, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à la gérer cette pression-là et que c'est néfaste, Jérôme, sur l'ensemble d'un match.
Jérôme, il faut être peut-être plusieurs pour mettre une telle pression. Et ma question est toute simple à Doudou. Doudou, est-ce que le président a continué à dire, peut-être à juste titre, que la Ligue des Champions était indispensable, que c'était vital, qu'il ne l'avait pas eu la saison dernière, qu'il fallait à tout prix l'avoir cette saison? Est-ce que en fait, c'est pas uniquement l'entraîneur. Est-ce que c'est pas l'ensemble du club qui met la pression sur les joueurs et sur l'effectif?
Non, parce que Jean-Michel Aulas est moins présent au quotidien. On l'a vu lors du match face à Angers dans un petit film inside, comme on dit dans notre jargon, sur les réseaux sociaux du club, où il avait inscrit un discours en disant « Croyez en vous, parce que moi je crois en vous ». Il parlait aux joueurs, mais pour le reste, il a confié dans cette nouvelle organisation justement le quotidien à Juninho, à Vincent Ponceau, le directeur football du club. Donc il est moins là, mais clairement…
Et tu ressens de la pression sur ces gens-là ? Plus que d'habitude.
Alors peut-être que Juninho est encore très joueur dans son dans son approche des matchs, donc très chaud, on va dire. Il faut que peut-être qu'il prenne un peu de froideur, hein, justement dans l'approche de ces matchs. Après, non, on n'est pas comme dans les grandes années où, vous savez, il y avait, je crois que c'était un match à Valenciennes, hein, Djibo, où vous savez l'arbitre qui avait fait soi-disant une faute, et du coup c'est une faute à 20 millions d'euros. Je me souviens de la formule cette décision arbitrale. Je ne sais plus exactement laquelle, mais avait finalement empêché Lyon de gagner, et donc sur le moment d'être sur le podium, je crois qu'à la fin il l'avait été, et donc en Ligue des Champions, on n'est pas dans cette pression-là. C'est une pression plus diffuse, avec un groupe peut-être qui se dit, voilà, comme je vous le disais, on est passé du vert à l'orange, et désormais quelque part on est dans le rouge parce qu'on est au pied du podium, la place du je vais pas le dire, mais pour une équipe qui était première, c'est pas la même sensation dans le groupe, j'imagine. Qu'à Monaco, qui est dans le sens inverse.
Il reste des matchs. Ils sont qu'à 3 points. Là, ils ont l'avantage. Et c'est un avantage.
Ils peuvent tout perdre en une semaine.
Non, mais on est d'accord. De toute façon, on le dit depuis maintenant 2 journées. Ils ont réussi à gagner à l'extérieur, à gagner à domicile. Ce que je veux dire, c'est que le moindre faux pas va être quasiment définitif pour l'Olympique Lyonnais. Et en effet, déjà, le titre va s'échapper. Et limite, la troisième, du moins, les 3 premières places aussi. Donc tout ça, ça rajoute une pression supplémentaire, mais on la ressent. C'est pas anodin. Je te parle de Juninho. Je sais que la réaction de Juninho après le match contre Monaco a été très dure envers certains joueurs monégasques. Et ça montre quand même que la pression est énorme.
Ça a mal été perçu, hein, d'ailleurs. Je me permets, messieurs, sur le banc monégasque, les retours que j'ai à Monaco, c'est que le banc lyonnais était extrêmement tendu depuis le début de la rencontre, et ça a pas plu notamment à Niko Kovac, qui est d'habitude très calme et qui pour la première fois de la saison a un peu pété les plombs envers un des adjoints de Rudy Garcia, qui n'a pas supporté tout simplement que on insulte plus ou moins Sofiane Diop sur le tacle qu'il a reçu par Deschiglio, qui voudra d'ailleurs à Sofiane Diop quelques semaines à l'écart du groupe, puisqu'il a été victime d'une entorse sur ce coup-là. Donc voilà, à Monaco on se dit que Lyon a vraiment déraillé sur cette rencontre-là et monté un petit peu tout seul en pression.
Le déraillement est, moi je voulais juste poser la question, quand le déraillement a débuté, parce qu'après c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est à la 23e seconde sur le tacle de Folland, c'est ça. Je n'ai pas toutes les clés de ce début de match pour savoir, mais c'est vrai que cette 23e seconde de ce match est importante.
Ça promet à Monaco Lyon la semaine prochaine.
Je peux te garantir que j'ai aussi eu quelques infos là-dessus. Ils les attendent de pied ferme, les Lyonnais, donc ça va rendre un match à Louis II. Celui-là, il ne va pas falloir le rater. Hein.
Avant de parler de Monaco, on va parler de Lille, puisque c'est le futur adversaire des Lyonnais. Lille qui se déplace à Lyon dimanche. Djibo, est-ce que pour toi, Lille est favori du coup de cette rencontre ? On a parlé de cette défaite en Coupe de France qui a peut-être mis un coup sur la tête des Lyonnais.
Moi je trouve qu'ils ont des atouts quand même, les Lillois. Ils ont 2 jours de récupération en plus par rapport à l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas joué en milieu de semaine. Il y aura pas d'excuse en tout cas de fatigue ou de quoi que ce soit dimanche. Il y a pas d'absent majeur. Il y a que Timothy Weah et Jérémy Pied. Pour le reste, tout va bien. C'est la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de saison. Une seule défaite, c'était à Brest, 3-2, et après un match à Milan où il y a très peu de temps de récupération.
Ils veulent pas le rejouer, les Brestois, le match. Je te l'ai dit. Hein.
Non, mais c'est le hasard fait que au Groupama Stadium, il y a eu 4 matchs entre Lyon et Lille, 3 victoires pour Lille, 1 match nul. Après ça va rien dire.
C'est important de rappeler ça.
Trois victoires pour Lille.
Pour Lille, oui.
Non, pour Lille.
On a eu 3 victoires pour Lille et 1 nul.
Et oui, oui,
sur
oui,
les 4 matchs de Lille à Lyon dans le nouveau stade. Hein.
Lille, c'est la bête noire dans ce nouveau stade pour l'Olympique Lyonnais.
Même donc, un petit peu avant.
Ouais. Donc ça, c'est aussi un élément important. Tout à l'heure, on faisait les paris sportifs avec Christophe Payet et on en parlait. Et j'en parlais. Je disais que c'était aussi une source de motivation pour les Lillois parce que c'est pas se prendre pour des cadors et sous-estimer cette équipe de Lyon. Mais quand une équipe réussit aussi bien dans un stade, ça te donne de la confiance et la confiance elle est souvent très utile sur ces gros matchs qui se jouent à pas grand chose.
Djibo
qui lui si tu sens voilà que son discours est un petit peu il prend beaucoup sur lui hein parce que les joueurs on en voit très peu. Jonathan David est venu tout à l'heure mais il a évoqué la possibilité par exemple de ce week-end de dire voilà bah peut-être qu'à 23h dimanche soir on sera quatrième. Je vous propose de l'écouter parce que voilà il sait que l'Europe c'est dans la poche mais il sait aussi que ça peut être la quatrième place et l'Europa League.
Il y a très peu d'écart et que d'une journée à l'autre, on peut être premier, voire quatrième. On sera peut-être quatrième dimanche soir à 23h. Je le précise, le LOSC sera européen la saison prochaine. Il y a 16 autres équipes qui aimeraient être dans notre situation. Si aujourd'hui, le LOSC est à la bagarre pour la Champions League et pour le titre, c'est que les joueurs savent faire beaucoup de choses, mais mettons tout en œuvre pour se battre jusqu'au bout.
Alors c'est pas l'objectif prioritaire. Alors être européen, oui, mais c'était la Ligue des Champions. Hein, l'objectif du début de saison, faut être bien clair. Quatrième, ça serait un petit échec quand même.
Voilà pour Lille, effectivement, qui d'après Djibo, par favori, c'est ton avis aussi visiblement,
non,
Jérôme.
Favori, j'ai pas dit favori parce que aller à Lyon comme ça, Lyon est pas une petite équipe.
Vous sentez ou quoi ?
Mais
non, il faut pas. T'es pas d'accord.
Non, mais tu vois la réaction de Jean-Michel, c'est exactement la réaction de la plupart des gens. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sous-estime cette équipe de Lille. Lille, ils sont premiers du championnat, ils ont été gagnés au Parc des Princes, ils ont très peu de défaites. La dernière, c'est à Brest. Il faut arrêter de penser que battre Lille, c'est facile quand même.
Rappelez-vous, contre le PSG.
En tout cas, 50-50, il n'y a pas. 50-50, il n'y a pas de favori. Et je peux te dire que là, on dit à Galtier, parce que Lyon est dans l'obligation, quasiment dans l'obligation, de gagner ce match-là.
Oui.
Parce que, oui, donc Lille est dans un fauteuil. Lille est dans un fauteuil. Ils peuvent.
Le match nul est déjà pour résultat pour Lille.
Bah, tu gagnes, t'es presque en Ligue des Champions pour Lille, si tu gagnes.
Exactement. Ouais. Donc, ils sont dans un fauteuil. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Lyon est dans une situation où ils ont obligation. Et cette obligation me fait penser que Lille n'est pas forcément le favori, même si, vous l'avez répété, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 victoires et un nul à...
D'accord.
Au groupe, je ne sais même pas comment il s'appelle.
Groupe Stadium.
Tu dis le stade de Lyon, on comprend.
Non, mais.
Stade
de Lyon, oui. Ou dis le de stade Gerland.
Djibo pour finir.
Ouais, un petit mot. Je pense que Jérôme, est comme moi, il pense à la situation de Lille avant le match contre le PSG.
Eh oui.
Et on a tous été, bluffés parce qu'on les voyait mal. Et là, comme Lyon va devoir faire le jeu et prendre des risques.
Ouais.
C'est là, ils sont forts.
Ça peut aider Lille, effectivement. Le multiplex de Rotten Regal, c'est en ce moment, bien sûr, 19h13. Le tour des stades tout de suite. 4 infos, une info chacun, messieurs. On va commencer par toi, Clément. Clément Brossard à Monaco. Des infos sur le groupe de Monaco avant d'affronter Angers.
Oui, je vous en parlais. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure donc de Sofiane Diop, entorse de la cheville gauche suite au tac de Chiglio face à Lyon. Il sera indisponible pour Angers dimanche et ce sera compliqué de le revoir contre Lyon la semaine prochaine. Jovetic est lui aussi incertain pour dimanche, touché au mollet. Les 4 cas Covid, à savoir Matazo, Matsima, Diata et Mio, font également partie des absents. Une bonne nouvelle tout de même avec Fabrias qui devrait être de retour dans le groupe pour affronter le SCO.
Très bien. Nico, Paul Orsi à Bordeaux. L'absence de Koscielny, gros coup dur évidemment pour les Girondins.
Ouais, gros coup dur parce que Laurent Koscielny, c'était le capitaine. Il est très bon sur le terrain. En plus, depuis le début de saison, c'est un des rares qui est vraiment à son niveau. Touché au tendon d'Achille, Laurent Koscielny, il pourrait manquer toute la fin de saison.
Aïe.
Et au-delà de son absence sur la pelouse, c'est surtout dans le vestiaire, quelqu'un qui était vraiment en train de fédérer et d'essayer de reconsolider, de ressouder ce groupe bordelais. Donc alors je te dis pas que ça marche, mais en tout cas il essaye. Pour le coup, c'est vraiment une perte pour les Girondins. Attends, parce que la charnière centrale à Lorient, c'est Bayce Mécher.
Capitaine, vous voulez dire.
Est-ce qu'ils ont fait une réunion avec.
Ah bon, on en parlera après.
Bien sûr. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, Capitaine, mais il y a eu une réunion suite aux derniers événements,
évidemment. On en parlera évidemment dans un instant.
Table ronde.
Juste, on continue notre tour des stades avec Edouard et les infos sur le groupe Lyonnais avant le choc face à Lille. Il y a une conférence de presse, il n'y a pas quelques minutes maintenant.
Ouais, c'est des informations toutes chaudes avec bien Sinali Diomandé suspendu, ça on s'y attendait. Rudy Garcia qui nous a parlé de Jamel Benlamri, Tino Kadewere, Jason Denayer qui sont incertains mais ils devraient être dans le groupe. Et puis là on sort de l'entraînement et on n'a pas vu Luca Paqueta qui n'est pas là aujourd'hui suite au coup de volant à la 23e seconde de ce fameux match Lyon-Monaco et il est très incertain pour le match de dimanche, touché à la cheville. Là ça peut être un gros coup pour Lyon, donc l'absence de Luca Paqueta, c'est une info toute chaude.
Le dernier match, il n'a pas été bon.
Oui, mais bon, il a été tellement bon lors des autres rencontres. Ouais. Jean Baumel à Lille, est-ce que Lille peut compter sur le soutien de ses supporters?
Ah bah écoute, il y a une initiative très sympa qui s'est déroulée cette semaine avec l'autorisation bien sûr du club de, bah, pour les supporters eh bien, d'accrocher les bâches avec des encouragements tout le long du chemin qui mène à l'entrée du domaine de Luchin. Donc on a vu des Common Reisel, Reisel ça veut dire Lille en flamand, jusqu'au bout avec vous, marqué d'histoire 1946, 54, 2011 et bien sûr 2021. 10 ans après, ramener la coupe à la maison. J'aurais plutôt mis le trophée parce que c'est vrai qu'ils ont fait le doublé en 2010-2011, ouais. Mais là la coupe cette année ça va être compliqué.
Ok, je vous donne une petite info sur le Paris Saint-Germain. Marquinhos absent du groupe à Metz, qui jouera demain à Metz, le PSG. En revanche, Verratti et Diallo sont bien présents dans ce groupe. On revient tout de suite dans le multiplex de Roten Régal avec des infos sur l'AS Monaco et donc sur les Girondins de Bordeaux. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC 18h-20h Roten Régal, François Pinet,
Jérôme Roten.
19h18 sur RMC, vous êtes dans Roten Régal. Allez, on continue, ouais. François, le multiplex, là, il y a des bonnes infos, c'est croustillant. On a hâte d'y être.
Mais c'est un rendez-vous incontournable désormais, le multiplex de Roten Régal. Dans 15 minutes, il y aura aussi le multiplex européen.
Il faut que Jean-Michel se lâche un peu
se
plus.
Parce peu
que
plus.
Là, j'ai eu l'impression d'entendre Zinedine Zidane. Je comprends qu'il protège. Hein.
Sur le 50-50 entre Lille et Lyon. Lyon,
non, il n'y a pas de favori, c'est 50-50. Lyon peut gagner, Lille peut gagner.
Bon, je vous rappelle que dans 15 minutes, c'est le multiplex européen. On ira en Espagne pour parler de Benzema, en Angleterre aussi, bien sûr, à 5 jours de City Paris Saint-Germain. On retourne à notre multiplex, donc de la 34e journée de Ligue 1 avec Édouard Gey, Jean Baumel, Nico Paolo Orsi et Clément Brossard. Justement, Clément, on va parler avec toi de Monaco. Monaco qui se déplace à Angers dimanche à 17h05. A priori, un match quand même
L'Angevin.
Assez simple pour les monégasques vu les performances d'Angers ces derniers temps. Et Monaco se cache de moins en moins, là. Ça y est, ils visent la Ligue des Champions, c'est officiel.
Alors, c'est vrai que certaines langues se délient à Monaco à l'approche de cette fin de championnat. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques jours même, il était hors de question de parler de Ligue des Champions tant que la quatrième place n'était pas mathématiquement assurée. Maintenant que c'est fait, le discours a changé. Comme promis, on parle de podium, mais pas encore de titre. Être champion de France est un rêve, a expliqué cet après-midi Djibril Sidibé. Je vous propose de l'écouter.
On vise vraiment, entre guillemets, une place vraiment directement en Ligue des Champions. On sait qu'il y a des équipes qui sont devant nous. Maintenant, chaque histoire a son match et puis personne affiche tout haut que oui, il faut qu'on gagne le championnat. Ça reste un rêve, donc on est attentif. On verra si à la fin, il y a moyen de faire quelque chose.
Alors Djibril Sidibé, il a connu le titre en 2017 avec l'AS Monaco. Ça a été le premier cette saison à avouer ouvertement, publiquement, que la Ligue des Champions était un objectif. C'était après la victoire à Saint-Etienne, alors que le sujet était encore tabou. Cette fois, il parle non pas de podium, mais de place directement qualificative en Champions League, à savoir la deuxième, même si la troisième pourrait être en fonction de qui remporte la Ligue Europa. En tout cas, Monaco se cache moins. La victoire à Lyon mercredi dernier a peut-être envoyé un signal aux concurrents, même si Nico Kovac cet après-midi a estimé que la Coupe de France était différente du championnat et que le Monaco-Lyon du 2 mai prochain ne ressemblera pas à celui de cette semaine. Il ne s'est pas étendu sur ce prochain rendez-vous car il a assuré que l'ensemble de son groupe était focus sur le match face à Angers dimanche, ce genre de rencontre qui pouvait s'apparenter à un match piège en début de saison mais qui aujourd'hui semble laisser peu d'espoir à des Angevins à la dynamique complètement inverse. Quelques petits chiffres pour vous montrer l'écart énorme entre ces deux équipes. Eh bien Monaco, c'est 6 succès de rang, toutes compétitions confondues, 8 clean sheets consécutifs, 14 buts inscrits sur ces 4 dernier match de Ligue 1, et Angers, c'est 3 défaites de rang et pas des moindres avec des scores fleuves.
Ils ont raison de se cacher comme ça à Monaco.
Il est bon, Clément. Moi, j'y crois au titre de Monaco.
Non, mais tu les as vu jouer, Nico. Ça fait la différence.
Moi, j'y crois. Moi.
Non, mais même moi, j'y crois.
Se cacher, ils peuvent plus se cacher vu la série où ils sont passés.
Ouais, mais ils se cachent un peu. Ils n'en parlent pas. Ils font des faux modestes.
Tu peux pas annoncer du jour au lendemain, ça y est, on joue le titre. Bien sûr. Parce que je pense que à l'intérieur du groupe, ils se sont mis comme objectif de finir le plus haut possible. Qu'en effet, la quatrième place, du moins être dans les quatre premiers, c'était très important pour eux. Donc ils ont avancé caché une grande partie de la saison. Et aujourd'hui, ils ont les bons retours parce que la série est impressionnante. Ils sont à 5 journées de la fin. Et là, on rentre enfin dans la dernière ligne droite. Et c'était pas il y a 5 journées. Là, on est à 5 journées de la fin. Donc le moindre faux pas, surtout quand t'as un championnat aussi serré, ça peut être définitif. Donc Monaco doit aborder ce match à Angers en essayant bien sûr d'aller le gagner. Ils ont cette ambition là. C'est vrai qu'avant le coup, tu te dis que le rapport de force il est quand même largement en faveur de l'AS Monaco. Mais attention, parce qu'il va y avoir une équipe à réaction, parce que ils ont pris des bonnes fessées là ces derniers temps, dont une mercredi soir à Angers. Ouais. Donc ils vont essayer de mieux défendre. Monaco vient de se qualifier à Lyon. Il y a aussi la satisfaction de s'être qualifié. Il faut se remettre dans le bain dimanche. Ça ne sera pas un match facile. Attention, c'est un pour moi, il est encore là, le match piège pour Monaco. On dirait
Zinedine Zidane qui parle.
Non. Pourquoi? Mais on est amis de toute façon.
Ils vont gagner,
je te dis que c'est un match qui est plus compliqué qu'il n'apparaît pour Monaco à Angers. Donc, méfiance. Après, ce groupe a toujours été surprenant. Moi, je voulais revenir juste sur la déclaration de Sidibé, ouais. Que je trouve très lucide. Mais encore une fois, Sidibé, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et moi, j'ai envie d'en parler. Quand je vois le match, par exemple, mercredi soir de Dubois et le match de Sidibé qui joue au même poste, excuse-moi de penser que Sidibé est meilleur que Dubois et que Sidibé mérite beaucoup plus une sélection en équipe de France et pourquoi pas faire l'Euro que Dubois.
Alors Sidibé, c'était pas gagné d'avance.
Je trouve très bon.
Il joue beaucoup dans une défense à 3. Toujours arrière droit.
Qui ça?
Ça dépend. Il tourne à Clément.
Il n'y a pas vraiment de système en fait avec Nico Kovac. C'est qu'il joue à 3 comme il joue à 5 derrière. Sidibé occupe à la fois l'axe et à la fois le côté droit. Et c'est ça qui perturbe l'ensemble des coachs quand on les voit en conférence de presse d'après match. C'est difficile de jouer contre Nico Kovac. Ils nous disent non, de jouer contre ses joueurs non, mais de jouer contre son système oui, parce que les joueurs vont partout. On ne sait pas vraiment comment ils jouent. Donc il y a beaucoup de mouvements autour de ça. Juste pour revenir rapidement sur Sidibé, c'est vrai qu'il a été très bon en conférence de presse cet après-midi. Il parle toujours très bien. Toujours très bien, mais a évoqué des choses très intéressantes sur le fait que notamment il avait senti que Nico Kovac avait transformé ses joueurs, qu'avant c'était peut-être pas des agneaux mais que ce sont devenus en tout cas des loups, et que lui retrouve aujourd'hui à l'entraînement une intensité aussi forte que celle qu'il a connue en première ligue. Ça l'a assez impressionné au début, et il trouve qu'aujourd'hui c'est bénéfique parce que ces joueurs, cette équipe est capable à l'heure de jeu, après 70 minutes de jeu, de prendre déjà l'ascendant physiquement sur ses adversaires.
C'est pour ça que je te dis ça sur Sidibé, et je reste convaincu que quand lui est bien physiquement, et c'est le cas actuellement, intrinsèquement il est plus fort, c'est un meilleur défenseur que Dubois, et c'est aussi, ça peut être un bon contre-attaquant.
Alors on va parler,
en sachant que Dubois n'est pas non plus un immense joueur, n'est pas non plus.
Ah non, mais c'est lui qui est la préférence en numéro 2 derrière Pavard en équipe de France. Je trouve ça incroyable. Après c'est le choix de Didier Deschamps, je suis pas sélectionneur, mais aujourd'hui quand tu compares les deux, je suis désolé.
Nico Paolorsi à Bordeaux, Bordeaux qui se déplace à Lorient. Alors là on est loin de la course au titre évidemment. C'est
qu'est-ce que je suis envieux quand j'entends tous ces correspondants qui jouent le titre.
Pour l'instant, Bordeaux est 16e. 4 points d'avance sur Lorient, 17e. C'est donc un match capital pour le maintien.
C'est le jour de Ben Arfa.
Dans un contexte, en plus, on a parlé des 18h dans Rotten Régal. Très, très compliqué, évidemment, Nico.
Oui, alors je vais essayer d'être meilleur que la semaine dernière parce que je vous avais vendu une réunion des clics et ils ont pris 3-0. Donc, on va essayer d'être un peu plus costaud. Non, mais alors, bien sûr, les événements d'hier font que ça bouleverse un petit peu la préparation du match. On l'a dit, les Girondins sont partis en stage à Lorient hier après-midi pour se mettre au vert, pour vivre ensemble. C'est ce que nous a dit Yacine Adli. Ils ont besoin de vraiment recréer des liens entre eux. Même si Yacine Adli nous a dit hier en conférence de presse, faut pas croire tout ce qui est sorti dans la presse. C'est pas Bagdad dans le vestiaire. Il y a pas de bagarre. Il y a des joueurs qui vont pas partir ensemble, mais ça c'est en vacances. Mais ça c'est le cas dans tous les groupes. Il a dit c'est pas l'anarchie non plus. On parle de clan. Il nous a même fait on parle de clan, mais c'est pas Koh-Lanta. Donc voilà, Yacine Adli. D'ailleurs, pour un jeune joueur de 20 ans a eu un vrai discours de capitaine.
Ouais, il parle bien. Après, il faudrait peut-être qu'il soit meilleur, quoi. Mais il parle bien.
Franchement, pour le coup, Jérôme, je te trouve dur parce que c'est pas le joueur le plus décevant aux Girondins, sachant que c'est sa première vraie saison en pro
La concurrence est rude.
Ce que j'allais vous dire. Mais pour voir tous les matchs des Girondins et les commenter, je peux vous dire que Yacine Adli, c'est plutôt une bonne surprise cette saison.
Une bonne surprise. Arrête.
Moi, je trouve.
Arrête.
Moi, je trouve. Comme d'habitude.
comme t'as dit Jean-Michel, l'équipe elle est tellement naze que les joueurs sont pas à leur niveau, ça c'est sûr. Mais je suis désolé si on s'enthousiasme aujourd'hui à dire oh, Adli c'est une ah, franchement il lui manque tellement de choses, lui présenté comme une future pépite par certains en sortant du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, il en est loin. Hein.
Bon. On laisse
non mais
Nico.
En tout cas bon là dans ce sprint final il affiche des qualités de leader qui peuvent être intéressantes pour
l'équipe. En plus c'est un leader alors là
c'est un leader alors là Nico
vas-y
arrête
Catherine.
S'il te plaît Nico s'il te plaît j'ai regardé le match de c'était dimanche le 3-0
contre Monaco
ouais. Parce que j'en vois tellement c'était dimanche mais c'est une équipe qui n'a ni leader ni âme, ni quoi que ce soit.
Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, Capitaine.
Non, ne me parle pas de leader avec les magasins.
Pour les Girondins de Bordeaux, les gars, essayez de transposer un petit peu. Je vous dis pas que Adli, c'est un grand joueur en Ligue 1 actuellement, mais pour cette équipe-là, c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est un jeune qui fait le lien entre les anciens et les jeunes du groupe. Voilà,
il se cache pas en conférence de presse.
C'est un bon mec. Et sur le terrain, moi, je vous le dis, en plus, il a fait des stats. Bon, c'est le meilleur passeur de Bordeaux cette saison.
Ouais, combien de passes? Vas-y, fais-nous rêver.
3.
Fais-nous rêver. Vas-y.
Je crois qu'il en est à 5. Non, je vais arrêter de venir sur ce multiplex.
Non, mais vas-y,
mais non,
Nico.
T'aimes bien.
Juste
non,
pour
il nous fait rêver. Attends,
on va te faire des wildcards.
Voilà, ouais, t'aurais pas ça. Dû parler d'Adli. Voilà, tu le sauras maintenant pour la prochaine fois.
Donc, non, mais alors, par contre, les réunions.
Écoutons Jean-Louis Gasset, parce que on a encore parlé à Jean-Louis Gasset de son avenir.
Oui, lui qui a investi, ouais. Donc vas-y. Hein,
et Jean-Louis Gasset, ça l'a un peu agacé quand on lui a parlé de son avenir.
On l'écoute.
Je finis cette saison. Laissez-nous finir notre travail. Essayons de travailler dans le respect, parce qu'il faut respecter les gens. Faut pas, quand les gens sont un petit peu affaiblis par une mauvaise série, oublier qui ils sont et ce qu'ils ont fait dans le football. C'est tout. Un peu de respect. Je demande un peu de respect. C'est tout ce que je demande.
Voilà, Jean-Louis Gasset qui effectivement a mis les points sur les i puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs pour le remplacer
à
Bordeaux.
Mais attends, franchement, là je réagis juste une seconde, mais quand il nous demande un peu plus de respect, oui, par rapport à l'âge qu'il a, bien sûr qu'il faut respecter cet homme-là, mais je suis désolé, quand il nous dit, ouais, par rapport à ce que j'ai fait dans le football, oh ça va, c'est pas Capello, hein.
Bon. Oh. Le tour des stades, 4 infos, une info chacun dans ce multiplex de Rotten Regal. Vous connaissez la musique. Djibo d'abord, une info sur Lens, avant Lens-Nîmes dimanche 15h, surtout... parce qu'il y a un joueur important qui ne sera pas là.
Ouais, c'est Gaël Kakuta qui est positif au Covid. On ne sait pas si Cheikh Doucouré reviendra. Il y a encore d'autres absents importants, Sotoka et Michelin qui sont blessés, trop juste en tout cas, Banza et Fortes qui sont suspendus. Allez, trois bonnes nouvelles, Seko Fofana, Jonathan Grady et Medina qui reviennent dans le groupe.
Edouard, est-ce qu'on sait contre qui Memphis sera suspendu avec ce carton jaune reçu cette semaine?
Oui, face à Lorient, hein, c'est officiel, même si Rudy Garcia en conférence de presse a quand même encore utilisé le terme de a priori, ce sera Lorient. Donc on rappelle, hein, il a pris 3 cartons jaunes en 10 matchs. Le troisième, c'était mercredi face à Monaco. Il y avait un questionnement parce que ce match, c'est la Coupe de France, donc sous l'égide de la FFF, pas de la Ligue de foot. Le temps que les dossiers se transmettent, mais ça sera bien le match face à Lorient le 8 mai à 17h au Groupama Stadium. Et donc,
ça, c'est l'avantage d'avoir Jean-Michel Aulas.
Clément, une info sur le groupe de l'OGC Nice qui accueille Montpellier dimanche à 13h.
Avec Miziane Maolida, fin de saison, hein, l'ex-lyonnais, il va se faire opérer de l'adducteur et donc sera pas disponible jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'a affirmé Adrien Urcia, qui sera également privé dimanche contre Montpellier d'Amine Gouiri, coup dur quand on sait que Nice n'a jamais gagné sans lui. Les Aiglons pourront compter en revanche sur leurs Algériens Youssef Attal et Hicham Boudaoui, aptes à démarrer selon Urcia.
Et Nico, est-ce que tu as des infos sur la compo des Girondins? Est-ce que Adli va jouer?
Ouais, vous voulez pas que je parle de Yacine Adli là? Ouais, il devrait jouer d'ailleurs Yacine Adli. Non mais il y a surtout un retour important dans le groupe, c'est Samuel Kalou, l'ailier nigérian qui est un joueur de percussion et c'est vrai que Bordeaux n'a pas ce profil là, donc
lui
ça peut faire du bien.
Lui pour de bon, je pense qu'il a du potentiel.
Merci
beaucoup.
Il a
du potentiel mais il est très souvent blessé. Donc retour de Kalou et attention Nicolas Depréville incertain, ça peut être un coup dur pour les Girondins.
Merci beaucoup Nico. Merci.
On sentait bien.
Bonne soirée.
Merci. Merci Edouard, merci Clément.
Salut les gars.
Sur RMC bien sûr tout ce week-end. À bientôt dans Rotten Regal. Allez tout de suite le multiplex européen. On parle de Benzema et de Manchester City. À tout de suite.
RMC 18h-20h Rotten Regal. François Pinet, Jérôme Rotten.
19h33 sur RMC, toujours dans Rotten Regal. Dernière demi-heure, c'est le multiplex étranger.
Exactement. Mais
avec Julien Laurence et Fred Hermel, bien sûr, les deux meilleurs correspondants étrangers.
Bien sûr. N'oubliez pas de vous inscrire pour le quiz aussi de Rotten Regal. Hein. 32-16, bien sûr, c'est toujours
bien
un grand
moment. Bien sûr.
Le multiplex européen, on y va.
RMC Rotten Régal.
Multiplex européen.
Ah, faudrait qu'on retrouve un commentateur écossais là, avec un but de Jérôme à Glasgow.
Bah ouais. Bah, bon courage. Hein.
On va chercher ça.
Il ne doit pas y en avoir 15 000 dans les archives. Hein.
Avec Fred Hermel qui est là ce soir.
Ouais, t'as raison.
Salut Fred.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Salut les garçons.
Et Julien Laurent est là. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Julien, on va parler avec toi, bien sûr, de City à 5 jours du match face au PSG. Je crois qu'il y a une nouveauté sur Kevin De Bruyne. Donc, bah oui, reste bien avec
nous. Il a une caméra isolée.
Mais on va commencer par l'actu du Real Madrid. Cette semaine, le Real s'est imposé à Cadix 3-0 grâce à un doublé de Karim Benzema. Benzema qui survole la Liga, ça on l'a dit. Oui, ah, une passe décisive. Excuse-moi d'avoir oublié ça.
Ah, bah non, mais si on est les meilleurs, comme dit Jérôme, on donne tout.
Exactement.
On en a parlé d'ailleurs hier dans l'after sur RMC avec Karim Jaziri, son agent. Est-ce que Benzema veut revenir chez les Bleus, voilà la réponse de Karim Jaziri.
Aujourd'hui, tu me demandes s'il reviendrait ? On parle du summum du foot, la sélection nationale.
Donc il revient.
Il est prêt depuis 6 ans.
Donc là, s'il appelle demain, il vient.
Il vient. Ça fait 6 ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot, Karim. Il aime s'associer avec les gens, faire des passes, marquer. Il aime gagner. Il n'y a aucun joueur qui a joué avec lui. Il ne peut pas dire « je ne veux pas jouer avec lui ». Je te dis, je suis venu ici pour te dire et pour le dire et qu'ils l'entendent. Karim ne lui en veut pas de ne pas avoir tenu sa parole de l'année à l'Euro.
Deschamps lui en veut de 2-3 trucs.
Et imaginons si Karim il appelle Didier. Moi je peux lui dire, je lui ai demandé. Karim il me dit, c'est le sélectionneur, je vais pas appeler pour supplier d'être sélectionné. Non.
Voilà, Karim Jaziri, c'était hier dans l'after. Fred, c'est vrai que, bon, on le sait sans doute, et toi aussi tu vas peut-être nous le confirmer, que Benzema, bah, il a envie de jouer dans cette équipe de France. On se dit, quel gros gâchis, quel immense gâchis sans doute aussi en Espagne.
En Espagne, dès qu'il y a une liste de Deschamps, on se demande pourquoi il n'y a pas Benzema. Parce que Benzema n'a jamais été aussi fort. Ça, je répète ça toutes les semaines, mais c'est la réalité. Ce qu'il a fait contre Cadix, à Cadix, dans un contexte un peu compliqué, hein. Le Real Madrid est un peu bousculé, hein, par toutes ces histoires, la Super League, etc. Après la trahison des Anglais. C'est un petit message rigolo à mon ami Julien, bien entendu, c'est pour rigoler. Le contexte était très compliqué et Benzema a fait un match exceptionnel encore une fois. Et donc, c'est vrai que Karim Benzema n'a jamais dit, ni publiquement, ni moi, j'ai quand même beaucoup parlé avec lui en privé, qu'il ne voulait pas revenir en équipe de France. Il a toujours eu envie de revenir en équipe de France. Oui, son agent historique l'a dit. Après, la situation, elle est pas facile. On sait que c'est un problème entre Deschamps et Benzema. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge là, parce qu'il y a quand même un message. On sait très bien que Karim Jaziri ne parle pas comme ça par hasard, mais qu'il exprime la pensée de Karim Benzema. Et j'insiste, Benzema n'a jamais dit qu'il renonçait à l'équipe de France. Vraiment, parce que...
Il y a une position qui me gêne sur Jaziri. Benzema, on ne lui demande pas d'appeler Didier Deschamps pour en disant
j'ai envie de revenir,
j'ai envie que tu me sélectionnes. Il faudrait qu'il l'appelle pour s'expliquer et éventuellement, si on peut considérer et on doit considérer qu'il y a une faute ou en tout cas une complicité dans les fautes qui ont été faites, juste s'excuser et puis c'est tout.
Je crois que Karim Benzema a dit, c'est ça le problème.
Il est là, donc c'est la quadrature du cercle. Donc oui. Parler du retour de Benzema tant qu'il n'aura pas fait un pas, et tu sais, de temps en temps, même si tu n'as rien à te reprocher, t'excuser.
Ça a été fait un peu hier soir, non c'est... Le message. Hier soir, il se passe quelque chose là-dessus.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Fred, sur ce qui, le discours de son agent. Maintenant, ça reste le discours de son agent.
Non, mais on sait très bien que c'est la pensée de Karim.
Qu'est-ce qui empêche déjà Karim Benzema de communiquer de la sorte, de la même façon que Karim Jaziri l'a fait hier? Et qu'est-ce qui empêche Karim Benzema, quand tu vois depuis. Et c'est pour ça que ça s'arrangera jamais de toute façon, on peut dire ce qu'on veut sur cette affaire-là, que c'est une affaire d'homme entre les deux, qu'il y a peut-être des propos de Karim Benzema qui ont été mal interprétés par Didier Deschamps, mais Didier Deschamps a vécu, et on le sait tous, qu'il a vécu des menaces, et c'est allé très loin sur sa famille et tout ça, et que c'est sûr qu'il lui en tient rigueur à ça, parce que c'est venu de Karim Benzema. La faute au départ, c'est bien Karim Benzema qui l'a faite, c'est pas Didier Deschamps, l'histoire avec Mathieu Valbuena, après qu'il soit fautif, pas fautif, j'en ai rien à faire. C'est cette affaire-là qui a tout déclenché. Et en fait, si le joueur Karim, moi, que je trouve incroyable, comme tout le monde, on est tous unanimes à dire que c'est un joueur et qui est encore plus fort ces dernières années et ces derniers mois, mais si lui pense qu'il n'a pas fauté et qui n'a pas à s'excuser, excuse-moi de penser qu'il fait une grave erreur et que ça pourra jamais s'arranger. Tu peux faire toutes les communications du monde. Jean-Michel vient de te dire, il attend Didier Deschamps et il attendait, maintenant je pense que c'est trop tard, il attendait juste un appel, qu'il se voit ou qu'il se rencontre et qui parle de cette affaire-là. J'ai mal compris ça, pourquoi t'as ça, tu vas communiquer comme ça et comme ça peut-être que ça va arranger les choses. Et là, j'en suis persuadé qu'il aurait été de nouveau sélectionné. Mais malheureusement, il ne l'a jamais fait et ça peut pas s'arranger.
Voilà. Bon, un petit mot aussi du Real Madrid qui va jouer contre Chelsea en Ligue des Champions. Entre-temps, il y aura un match contre le Betis Séville demain, 32e journée de Liga. Hazard va revenir dans le groupe, hein. Ça, c'est important quand même.
Et ouais, alors ça, c'est important parce que on va dire que Zidane et les médecins et Hazard ont un peu changé la méthode. C'est-à-dire qu'après toutes ces blessures, ils prenaient un peu de temps quand même, même un peu plus que pour les autres, pour pas qu'ils se blessent. Là, ils ont pris un mois. Ça fait un mois qu'ils s'entraînent avec le groupe avant d'être convoqués.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aussi, il avait beaucoup de matchs très importants où on n'allait pas lancer Hazard contre Liverpool en Ligue des Champions. Mais ça veut dire que là, il y a eu un traitement. Ils ont essayé un nouveau
traitement.
Ils ont
pris le temps.
Ils ont vraiment pris le temps. Et là, Hazard semble être vraiment très, très bien. Avec un risque de rechute qui semble
minime.
Jamais nul, mais minime en tout cas. Parce que là, si ça fait un mois qu'il s'entraîne vraiment à fond avec ses partenaires, il n'y a pas de problème. Donc, qui sait
ça peut être la bonne surprise à la fin de saison, ça.
J'imagine.
Vous rendez compte si Hazard élimine Chelsea.
Pour l'euro de la Belgique.
Ouais, imaginez que Hazard élimine Chelsea quand même. Hein. Pour Julien Laurence et pour les Blues, ça va faire mal.
On lui souhaite.
C'est-à-dire qu'il y a le match aller et puis il y a le match retour aussi. Donc même s'il n'est pas encore parfait pour le match de mardi, match de mercredi de la semaine d'après, là, ça peut être un élément décisif. Alors je pense qu'il ne peut pas être titulaire aujourd'hui, surtout que Vinicius va bien, on sait que ça marche bien, etc. Mais qu'il peut être à un moment dans cette double confrontation important. Donc, oui, c'est une très très bonne nouvelle.
Mais on a beaucoup de respect pour Vinicius, ce qu'il fait, il a progressé et on le voit. Maintenant, Hazard, à 100% de ses moyens, reste un joueur fabuleux.
On attend de voir, de retrouver Julien, le Hazard de Chelsea, effectivement. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Julien. Pep Guardiola était en conférence de presse avant la finale de Coupe de la Ligue. C'est contre Tottenham demain, donc pour Manchester City. Et il y a encore des infos supplémentaires sur De Bruyne ou pas? Tous les jours, une info.
Ah bien sûr. Après-demain la finale, dimanche.
Ah oui, après-demain. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est demain parce que je me dis qu'ils ont le même temps de préparation que le PSG, mais pas du tout.
Ils jouent le dimanche, les Anglais. Ça y est, ils rejouent. Avant, on ne jouait pas le dimanche en Angleterre. Mais
non, mais là, la finale de la Coupe de la Ligue, effectivement, est dimanche. La très bonne nouvelle, c'est que Kevin De Bruyne a repris l'entraînement, comme Sergio Aguero.
Déjà.
D'ailleurs, même si avec Aguero, pour les deux, on est très prudent, côté City et côté Pep Guardiola surtout. Encore une fois, on l'avait dit hier, on le répète. La grosse peur de Pep Guardiola, c'est une rechute forcément pour Kevin De Bruyne et cette douleur, cette blessure à la cheville, comme Jérôme l'avait bien expliqué cette semaine aussi. S'il peut passer outre la douleur, que ce soit lui tout seul en serrant les dents ou alors avec un petit peu d'aide d'une infiltration médicale, par exemple médicale, exactement Captain, ça pourrait le faire. Encore une fois, pas dimanche je pense, ou en tout cas pas comme titulaire, mais pour la semaine prochaine contre le PSG et ce match aller, là ça devrait être une autre histoire effectivement. Donc à voir, mais c'est une très bonne nouvelle effectivement de revoir Kevin De Bruyne avec le reste du groupe.
Ah oui, non, c'est une super nouvelle et moi j'ai envie qu'il soit sur la pelouse parce que j'ai envie de voir les meilleurs joueurs. D'ailleurs, j'en salive d'avance d'aller commenter ce match-là, vraiment, ça va être fabuleux et
c'est vrai aussi
mais c'est une vraie chance en tout cas d'être au commentaire de cette rencontre là cette double confrontation.
Qu'est-ce que tu aurais aimé commenter ce match?
T'es pas nostalgique, t'as fait ton temps. Attends,
on a commenté des grands matchs
pendant 40 ans, t'as commenté tous les matchs.
Oui, j'ai commenté Rennes-Guingamp, j'ai commenté...
Mais oui.
Oh là là, tu vas nous faire pleurer, Captain.
Et commenter la Super League, Jean-Michel, t'aimerais bien... C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Oh là là, c'est...
Si tu me fais un petit chèque...
Si je serai dans un drôle d'état lorsque la Super League disputera...
Attends, elle est en stand-by.
Oh, la mauvaise herbe, tu sais, Jean-Michel.
Mais bon, son état peut se dégrader en un an, déjà, à 74 ans.
Julien, juste un mot sur...
Donc t'es vacciné, Jean-Michel.
Face à Tottenham. Tottenham, le City face à Tottenham, est-ce qu'il va faire tourner en prévision du PSG ou est-ce qu'il va jouer à fond cette finale de Coupe de la Ligue? Comment il est Pep Guardiola?
Je pense qu'il va la jouer à fond, bien sûr. Ce serait le premier titre de la saison ici en Angleterre. On sait qu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre le week-end dernier par Chelsea, eux qui rêvaient de ce fameux quadruplé que personne n'a jamais réalisé en Angleterre. Donc il va la jouer à fond, mais quand Pep Guardiola joue quelque chose à fond, ça veut pas forcément dire qu'il va mettre sa meilleure équipe. On sait qu'il s'adapte aussi, pas forcément au calendrier, mais à sa façon de voir un match, à sa façon de voir une finale dans ce cas-là. Donc c'est possible aussi qu'ils nous surprennent encore un petit peu avec ses choix, mais dans leur esprit, ils y vont pour la gagner. Ce serait la quatrième fois de suite qu'ils remportent cette Coupe de la Ligue. Personne n'a jamais fait ça, forcément. Ce serait la cinquième fois en 6 ans aussi. Ils n'ont plus perdu depuis 2016. C'est assez simple. En finale en Coupe de la Ligue et encore plus en finale. Pour Tottenham, ce serait le premier titre depuis 2008 qui était déjà une Coupe de la Ligue avec Ryan Mason, donc le jeune entraîneur, ancien joueur du club, qui entraînait la réserve, qui a pris la place de José Mourinho jusqu'à la fin de la saison, qui a gagné son premier match contre Southampton en championnat il y a quelques jours. Mais c'est vrai que c'est une tâche quand même assez incroyable pour lui, ce jeune entraîneur, d'affronter Pep Guardiola en finale d'une Coupe de la Ligue qui est vraiment la compétition de Manchester City. On fait bien sûr de City le grand favori de cette finale, mais sur un match, tu sais jamais.
Okay. Tottenham City, donc ça sera la finale de Coupe de la Ligue qu'on suivra sur RMC évidemment, puisque ça sera à quelques jours de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Ouais. Merci beaucoup Julien. À très bientôt. Tu vas être sollicité ces prochains jours.
Oui, on va le voir.
Merci Fred.
Moi, ce sera pour la finale.
Merci Fred.
Ouais. Ah, parce que le Real Madrid joue quand même la Ligue des Champions, ça les intéresse?
Bah, c'est l'UEFA. Mais l'UEFA, alors l'information aujourd'hui, l'UEFA dit qu'il n'éliminait pas le Real Madrid.
C'est
le football
vrai.
Populaire, tout ça, c'est important, la défense des valeurs de l'UEFA. Mais bon, les revenus liés à la Ligue des Champions, on va pas se priver de celui qui en a gagné 13 quand même.
T'as raison.
Jean-Michel, on se comprend, toi et moi.
Allez, bien sûr.
Salut Fred. À bientôt. À bientôt. Allez, on revient dans Roten Régal pour le grand moment. Le quiz de Roten Régal, c'est à peu près au niveau de la Super League. Le quiz de Roten Régal. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. François Pinet, Jérôme Roten.
19h48, allez, dernière ligne droite, toujours sur RMC, bien sûr, dans Roten Régal. Il reste 10 minutes. Et 10 minutes, ça veut dire quoi? C'est l'heure du quiz.
C'est l'heure du quiz, on y va tout de suite.
RMC, Roten Régal.
Donnez-moi un milieu du PSG hors Verratti.
Hors Verratti, Draxler.
Non. Coucou. Oui, coucou Jean-Michel. Non, c'est pas ça. Coucou.
Le quiz.
J'avais raté celui-là. Magnifique. Magnifique. On est avec Alexandre qui a fait le 32-16. Salut Alexandre.
Salut Alexandre.
Salut les gars.
Alors, tu veux être supporter du PSG. Tu veux jouer avec qui, Captain ou avec Jérôme?
Je vais être obligé de prendre le dieu vivant. Le meilleur pied gauche de toute la planète.
Alexandre, bien sûr, t'as raison.
D'accord.
Moi, je suis pour les gagnants, désolé Jean-Michel, mais moi, je veux gagner ce soir.
Mais oui, bien sûr. Attention. À mon avis, elle a un bel auditeur, Jean-Michel.
Il a révisé. Tu seras avec Pierre, Jean-Michel. Ah. Salut Pierre.
Salut.
Salut Pierre.
Ça va?
Oui, ça va, oui.
Pierre, désolé. Je me souviens, avait gagné un quiz, je crois, il me semble.
Mais pas avec Jean-Michel. Ouais. Donc là, tu joueras avec Jean-Michel.
Désolé pour toi,
Pierre. Gagné, effectivement.
Alors, on y va. Pour ce quiz, on va commencer par un qui a dit. Au début, je me suis dit que c'était une blague en parlant de la Super League. La culture du sport en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. Non, les 12 clubs ont eu tort.
Henri?
Non.
Cantona.
Dans notre culture, tout se construit sur le mérite sportif. Et si vous êtes une meilleure équipe et que vous gagnez,
Klopp,
vous jouez dans la meilleure compétition. Ils ont eu tort, tant pis pour eux. C'est un entraîneur. Non. C'est un entraîneur qui ne peut aimer que la Ligue des Champions parce qu'il l'a gagné. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
Non.
Ah non.
Ancelotti,
bah non. Si, Carlo Ancelotti, effectivement, qui a gagné avec le Milan et le Real.
Tu n'as pas parlé des États de l'Amérique, là, que tu m'as parlé?
Non. Oui, ben, la culture du sport en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. C'est la phrase d'Ancelotti aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à Everton et il s'est exprimé sur la Super League. Allez, puisqu'on parlait des Girondins de Bordeaux, monument en péril, on va en parler un petit peu. Qui est le meilleur buteur du club cette saison?
De Préville?
Non,
Wang. Wang, bonne réponse.
Bien joué, Alexandre. Bien joué, Alexandre.
Un par aussi. 11 buts.
Avec toi, merde.
Ben ouais, je sais, désolé.
Bravo, pour l'instant, ce sont les auditeurs qui font le quiz. Hein. Qui a été la plus grosse recrue en termes de tarifs, de montant, des Girondins de Bordeaux version King Street?
Koscielny.
Bernard
Fay, il était gratuit.
Calou.
Bonne réponse, Alexandre.
Bien joué, Alexandre.
10 millions d'euros en janvier 2020, en provenance de Reims.
Jérôme, tu dors, merde.
J'avais Koscielny en termes de salaire.
2-1 pour l'équipe, Jérôme Alexandre. Attention, le dernier titre de champion, c'était en 2009 pour les Bordelais. Qui était sur le banc?
Sur le banc.
Laurent Blanc, bonne réponse. C'est Alexandre encore.
Qui ça?
Alexandre.
Laurent Blanc. Qu'est-ce qu'il a dit?
Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Ah, c'est Laurent Blanc.
Bah oui, en 2009.
Pourquoi j'ai dit Eli Bob?
Toi, je sais pas, parce que tu dois aimer l'homme à la casquette.
Allez, on va parler de Reims Marseille.
Oui, non.
Reims Marseille, c'est ce soir, les amis. Ouais. En Ligue 1. Comment s'appelle le stade de Reims? Auguste Delaune, bonne réponse de Jérôme.
Oh,
qu'est-ce qu'il a été rapide. 4-1. Bah oui, c'est facile, c'était pour toi.
J'ai tellement brillé là-bas.
Qui est le capitaine de Reims?
Capitaine?
Qui?
Le capitaine de Reims.
Abdelhamid.
Abdelhamid, bonne réponse, Captain. Merde. Il a pour Alexandre.
Eh, hey, du calme, toi, là-bas. Oh.
C'est bon, combien ça fait
4-2. 4-2 pour l'équipe Jérôme Alexandre. Quelle est la nationalité du gardien de Reims?
Slovaque.
Slovène?
Non.
Croate.
Alexandre, bien joué. Oh, il est à fond, bravo. Ouais. 5 points, c'est Rajkovic.
Ouais, j'avais dit Yougoslave, j'étais pas loin.
Ouais, c'est vrai, c'est lui, la Yougoslavie.
Merci d'avoir participé, Jean.
Allez, non, toujours sur Reims. Toujours sur Reims. Quel entraîneur devrait remplacer David Guillon?
Oscar Garcia.
Oscar Garcia. C'est encore Alexandre.
Ouais, ouais.
Mais dis donc, mais t'as révisé ton
c'est rapide. Hein. Wow. Les gars, mais moi, c'est juste que je suis attaqué, quoi.
Bien joué, Alexandre. Gardons un peu la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine.
6 points dans Alexandre, quand même, pour l'équipe Alexandre Jérôme. Bravo. Hein. Allez, une dernière question pour Reims, après, 6-2, je vous embête c'est... plus.
Ouais.
Qui est le meilleur buteur du club cette saison?
Dia,
bonne réponse, Captain. Bonne réponse.
Ok, bah, tu t'es vu la vie.
Boulaïdia, c'est
ça. Dia.
6-3. Il y a Lyon-Lille ce dimanche, choc de la 34e journée.
Ouais.
Qui est le meilleur buteur des confrontations dans l'histoire entre les deux clubs? Non. Il a marqué 9 buts.
Lacombe.
Non, c'est plus récent. Il a marqué 9 buts pour Lyon contre Lille.
Lacazette.
Non, c'est dans les années 2009-2010.
Maurice.
Bah, c'est Benzema, c'est Ben Arfa.
C'est un Argentin.
Lisandro Lopez.
C'est Pierre,
ah, c'est
non
Pierre.
Non, ouais,
c'est Pierre.
C'est Pierre.
C'est Pierre.
Je demande la VAR.
Attends, il n'y a pas de VAR, on n'a pas les moyens ici. Bon. Ça sera Alexandre, effectivement. Je pense qu'on me dit Alexandre. Ouais. Ça fait 7-3 pour Jérôme et Alexandre. Allez, faut vous remonter là, Pierre et Captain.
Ah oui,
mais
bon.
C'est l'heure de dormir pour Jean-Michel.
2 points en jeu pour la charade. 2 points.
Ah non, pas la charade.
Mon premier est essentiel à la vie.
Oh, je suis nul.
M'ont dit que mon deuxième. Non, pardon. On dit qu'il y a mon deuxième quand il y a un problème. Mon troisième est un poisson tout plat. Mon troisième est un poisson tout plat. Mon quatrième est la meilleure partie du pain. Mon tout est un attaquant qui a joué à Lyon et à Lille.
Loïc Rémy.
Loïc Rémy, bonne réponse. C'est 2 points. C'est 2 points pour Captain. Magnifique.
7-2.
Oui, j'avais prévenu. Non, j'avais prévenu. Comme c'est
7-5.
Difficile,
7-5.
Eh ben, ça fait 2 points.
7-5.
Allez, c'est pas terminé.
Et Kadé, qu'il faut réfléchir un peu.
Magnifique. Ouais, ouais. Loïc Rémy, mon premier essentiel à la vie, c'est l'eau. On dit qu'il y a mon deuxième quand il y a un problème,
c'est
un hic. Mon troisième, un poisson tout plat, c'est l'arrêt. Mon quatrième, la meilleure partie du pain, l'ami. Bravo, Loïc Rémy. Et, pardon?
Quoi?
Alexandre. Allez, il reste une minute pour égaliser. De qui parle Jesse Lingard, l'ancien joueur de Manchester qui est aujourd'hui à West Ham? Bravo!
Eh oui!
Bravo! Tu as vu? Bravo! 7-6, effectivement, il peut être le prochain ballon d'or. Voilà ce qu'a dit Jesse Lingard.
Ah non, mais je suis obligé, autrement, je suis en retard. 3 secondes de décalage.
Magnifique. Qui a dit? Ma priorité, le projet sportif. Ça fait 4 ans que je joue, c'est des professionnels. J'ai un peu tout vécu ici. Donc je pense que c'est le projet sportif qui me fera prendre ma décision. Le fait de ne pas jouer la Ligue des Champions avec Marseille la saison prochaine, c'est pas un problème.
Camara,
bonne réponse.
Eh oui.
Bonne réponse de Jérôme Rotten. Et c'est la victoire. Et c'est la victoire de Jérôme Rotten.
Je me suis battu comme un lion.
Ouais, c'était magnifique.
Et Pierre, quand tu es avec Jérôme, t'es bon. Quand tu es avec moi, t'es nul.
C'est pas 8-6, c'était un match magnifique. Bravo,
merci Alexandre.
Et merci à Pierre, tu reviens quand tu veux, bien sûr.
Merci,
Dis-moi,
bravo, Captain.
Alexandre, tu joues avec moi la prochaine fois.
Merci, Jean-Michel.
Jean-Michel, excuse-moi, mais moi, mon Dieu, c'est Jérôme. Je peux pas quitter Jérôme.
Parce que t'es un connaisseur de foot, c'est pour ça.
Je t'enverrai quelques vidéos, tu verras que ce sera plus ton Dieu.
Allez. C'est une défaite encourageante, Captain. C'est une défaite encourageante pour la suite.
Ouais, c'est ça. On dirait Moscato qui
nous parle. Allez,
Charvet,
passe un bon week-end.
Salut,
Toi bien, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. On aura besoin de toi.
On salut accueille Christophe. Christophe Cessieux qui est là pour l'intégrale foot et sur
France Marseille. Vous êtes en pleine forme là.
Ah ouais, on est bien. On est
magnifique.
Bon week-end qui s'annonce là, Jérôme.
Oui, magnifique.
En plus, commencer comme ça sur une victoire, c'est bien.
Je sais pas qui est plus bronzé entre Jérôme et Christophe.
Christophe a été sur la Côte d'Azur.
Il y a une lutte pour le bronzage là, quand même, pour le plus beau bronzage.
C'est vrai.
Et ce soir, on va s'intéresser à ce match donc entre Reims et Marseille qui va ouvrir la 34e journée. Alors, je sais que vous avez parlé de la course au titre, donc on va s'intéresser à la course à l'Europe parce qu'il y a aussi cette 5e place qui intéresse pas mal de clubs. Et puis, on s'intéressera également à une autre course, la course à la montée en Ligue 1 avec Wilfried Templier, puis un invité exceptionnel durant cette première heure de l'intégral foot. C'est pas un footeux, c'est un coureur cycliste, Warren Barguil, qui sera avec nous avant Liège-Bastogne-Liège sur Radio dimanche. Voilà le programme.
Dès 20h, l'intégral foot avec Christophe Cessieux. Nous, Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine.
On va souhaiter un bon week-end à tout le monde.
Pour
amusez-vous bien sur la soirée avec Christophe. Et puis à la semaine prochaine, bien sûr, une grosse semaine.
Ouais.